Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction. Aujourd'hui, podcast 93, un podcast exceptionnel puisque nous allons parler d'une thématique qui va faire plaisir à bien grand nombre d'entre vous.
Toutes les thématiques font toujours plaisir.
Sur PC en 2009, une question que nous posons tous, hein, bien évidemment. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça peut rapporter gros? C'est ce que nous allons voir.
Est-ce que ça coûte cher aussi?
Est-ce que c'est tendance? Eh bien pour ça, je pense que CAF... On aura fortement besoin de toi, bien évidemment.
Ouais.
Il y aura aussi Julo, il y aura aussi, bien sûr, Raon. Et nous avons un invité exceptionnel. Il s'agit de Guillaume Louel, a.k.a. C-Wizard, a.k.a. C-Wiz. Bienvenue,
en version
Guillaume.
Courte.
Exactement. Bonjour à tous et merci de... Merci de m'avoir invité.
Ouais. Eh ben écoute, ça
et
nous
tu
fait.
Tu vas pas bouger ton micro, sinon je te tape.
Vraiment plaisir. Alors tu bosses en ce moment sur Joystick. Tu bosses aussi à rnumérique.fr.
Exactement.
Et donc tu es un véritable spécialiste de l'univers PC.
Du matériel PC plus particulièrement, effectivement, du jeu sur PC.
Très bien. Eh ben écoute, on aura besoin de ton expertise tout au long de cette heure de podcast, comme d'habitude, enregistrée sur une table à repasser. Bah, exceptionnel, hein, de la planète Internet, tu peux le constater.
C'est...
Hein.
Non, c'est une vraie table à repasser quand même.
Et
je pensais que c'était un mythe,
encore.
Moi j'y croyais pas, et effectivement, je confirme pour tous ceux qui en doutaient.
Ce n'est pas une vraie table mytho, mais une table mythique. Fantastique, en vous remerciant.
Bon voilà, c'était ta vanne de la soirée. C'est
exactement,
fini,
après tout, mais je vais je vais d'ailleurs peu parler dans ce podcast sur le PC. Je vais être là pour vous écouter, puis pour essayer de bien tout cerner. Le passé du PC, le présent du PC, le futur du PC, nous allons tout savoir. Et nous allons commencer avec une sorte d'état des lieux, justement, de cette plateforme incroyable. L'expérience jeu sur PC, et ben, c'est comment, c'est quoi, CAF?
Bah,
ouverture
écoute,
des hostilités.
C'est très différent. Et sur Gameblog, on sait qu'on a un public qui est quand même assez scindé avec vos passés respectifs. Mm-hmm. Où on est quand même très console sur une grosse majorité du lectorat.
En même temps, il y a aussi beaucoup plus de consoles que.
Que de PC.
Que de PC, je ne crois pas.
Non, pas que de PC, mais que de joueurs.
Ah oui, d'accord.
Il y a plus de joueurs console que de joueurs PC.
Et ben, ça se discute justement. Il y a des statistiques. Ça dépend comment on compte en fait les joueurs de PC. Si tu comptes les joueurs casual ou si tu comptes les joueurs. Parce qu'après, c'est toujours un grand débat. Mais effectivement, si tu comptes les joueurs casual, tu as beaucoup plus de joueurs PC.
Tu comptes le démineur, tu triches.
Bah voilà. Voilà. Ou les jeux flash, effectivement. Non, mais il a raison de le signaler.
Mais donc, non, l'expérience est extrêmement différente parce que ce qu'on en parlait tout à l'heure avec Julien, quand tu joues sur console, t'es vautré, t'es dans ton canapé, t'es
bien,
ta télé, t'es bien. Sur un PC, t'as plein de gens qui ne font pas l'effort des gros nerds de notre genre. Moi, quand je change de fauteuil pour mon bureau, c'est une épopée de 3 semaines parce qu'il faut que je
bon gros fauteuil en cuir, bien moelleux avec les.
Exactement.
Les coudoirs qui vont bien, qui arrivent pile poil sur le bureau et le tapis de souris.
Parce que sinon, on a mal à la main au bout de la quatrième heure de haut, c'est pas possible, tu vois.
T'es du genre de mec à avoir une espèce de tapis de souris avec un truc molletonné là ou en
non,
machin pour poser
non,
le
ça fait au poignet.
Ah, c'est pas bon ça.
Je suis le genre de mec à avoir le fauteuil en cuir qui est juste à la hauteur de l'accoudoir avec le bureau, tu vois. C'est important, tu vois. On rigole pas avec ça. Donc effectivement, c'est un peu plus d'investissement, mais on y passe des plombs. Mais sur PC, on fait tout puisqu'on joue, on travaille, on écrit, etc. Mais ça veut aussi dire qu'on est à 20 cm de l'écran, que l'immersion elle est pas la même. Que le son, il y a plein de gens qui ont des enceintes pourries à 20 euros et c'est une cata. Et plein de gens ne font pas effectivement l'effort d'investir sur les à côté du PC en fait.
Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens aussi en même temps. Hein, mais...
Non, mais il y a des gens qui ne savent pas, mais vraiment.
Aussi.
Donc ils ne savent pas quoi acheter et là ils font la catastrophe, ils vont acheter leur PC chez Leclerc. Je n'ai rien contre cette enseigne en général, hein, mais.
Tu peux la remplacer par Auchan.
Voilà, en grande surface, effectivement. Et c'est une erreur que généralement ils ne font qu'une fois
voilà.
Parce qu'ils s'aperçoivent rapidement de l'erreur qu'ils ont fait.
Et si elle recommence, on ne peut plus rien pour eux. Quoi.
Exactement. Donc, on veut plus d'eux.
Voilà, et s'ils savent pas quoi acheter, s'ils sont pas renseignés, il y a un vrai effort à faire dans le PC que t'as pas forcément. Je veux dire, une personne qui achète une Wii se prend pas du tout la tête
bien
à aucun moment. Et on n'est pas
dans
le.
On...
oui, voilà. Mais on n'est pas dans le même. On n'est vraiment pas dans le même acte d'achat, quoi. Donc, le joueur PC généralement est vachement plus éduqué entre guillemets.
D'accord. Donc la manière de consommer finalement le jeu est déjà un peu différente sur l'univers autour de soi, le côté de profiter un peu de l'expérience, de l'immersion.
Exactement.
Mais au-delà de ça encore, c'est pas du tout la même manière de consommer le jeu que sur console où tout est formaté au sens littéral du terme. On met son jeu, on appuie, c'est parti, partie immédiate. des avantages, des inconvénients avec l'expérience PC à ce niveau-là, bah, Guillaume Caff?
Bah, l'expérience de base, c'est la séparation paddle sur console, et nous, sur PC, c'est le truc de base, c'est la souris et le clavier.
Exactement. Mmh.
Guillaume.
Oui, c'est ça. C'est le fait d'avoir la souris et le clavier, c'est effectivement un plus. Après, au niveau des temps de chargement, alors ça a changé au niveau console PC. Avant, les consoles, c'était immédiat quand on avait les cartouches.
Mmh. Putain, oui.
Maintenant,
c'était bien.
C'était bien parce que maintenant, on est revenu au
CD. Il y a des installs sur PS3.
Et il y a des installations sur PS3 qui sont. C'est une folie. Street Fighter 4, par exemple, l'installation, ça rend fou.
T'as pas joué Metal Gear Solid 4
Si, c'est pareil. Metal Gear Solid 4, tu te dis, mais il faut que je change le disque dur de ma PS3. Parce que c'est pas assez rapide. Alors effectivement, c'est là où tu te dis que sur PC, tu as un certain nombre d'avantages quand même, parce que la machine est plus puissante, on a l'installation des jeux qui se fait maintenant de nos jours quand même assez rapidement, en tout cas comparé aux consoles très rapidement, et le démarrage du jeu est instantané, les temps de chargement.
Mais pas
là aussi,
celui du PC en revanche.
PC est un PC qui reste toujours allumé.
Ah, si, c'est vrai en plus.
Exactement.
Mais cela dit, je modère, c'est que je sais très bien que dans les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui ont des PC qui ont 2-3 ans. Guillaume et moi, on change à peu près tous les ans, donc forcément, toi, t'as des processeurs qui n'existent pas, donc.
On en parlera tout à l'heure d'ailleurs.
Déjà, tu triches. Mais très clairement, je sais qu'il y a des gens qui, par exemple, qui ont critiqué, j'ai pas parlé des temps de chargement sur un test de Empire Total War, des gens en disant oui, mais ça met un quart d'heure pour charger une guerre et tout machin. Moi, ça met 10 secondes chez moi. Donc forcément.
Vous écoutez ça? Ça met 10 secondes chez lui.
Mais ça, c'est le problème du PC, c'est que c'est pas une expérience de jeu homogène pour tout le monde.
Ouais,
selon la machine, ça va être selon la carte graphique, le processeur, le disque dur, l'installation de Windows, les spyware que tu as ou pas sur ta bécane.
Mais est-ce que ça, c'est pas fondamentalement un vrai problème en fait?
Ah, complètement.
Bien sûr.
Parce que
c'est
du coup, il y a un nivellement, même j'imagine, pour les développeurs, ils doivent développer pour chaque carte graphique, pour chaque style.
Par le bas, en fait, par rapport au matériel, puisque grosso modo, les développeurs de jeux doivent s'aligner sur des PC qui datent d'à peu près 2 ans. C'est à peu près leur.
C'est la norme.
Ouais. C'est en gros la norme. Ils regardent les configurations qu'ils vendaient il y a 2 ans. Pour les joueurs, et ils se disent il faut que mon jeu tourne au minimum là-dessus, voire des fois un petit peu plus loin. Ce qui leur pose des problèmes, puisqu'on en parlera un petit peu, mais l'évolution du matos est telle qu'on se retrouve avec des choses qui sont sous-utilisées, et donc c'est vraiment assez compliqué, que ce soit pour les développeurs et les joueurs.
Quand tu as du matos de dernière génération, c'est hyper frustrant parce qu'effectivement, ça n'avance pas aussi vite que toi, t'aimerais.
Il y a aussi des problèmes de goulot d'étranglement, il y a des technologies qui avancent plus vite que d'autres aussi.
Ouais, exactement.
Complètement. Quoique maintenant, ça s'est vachement harmonisé. Donc un PC moderne, et ça, on va le dire une fois, et on va pas non plus se foutre de la gueule de tous les joueurs consoles pendant tout le podcast. Maintenant, un PC moderne éclate une PS3, quoi que Sony veuille en dire. Et voilà, et c'est la vie, c'est tout.
Techniquement, voilà. Faut peut-être rappeler justement.
Guillaume, ouais,
La PlayStation 3, à la base, c'était du matériel PC au moment de sa sortie. C'est-à-dire que le processeur graphique de la PlayStation 3, c'est un GeForce 7, un GeForce 7 1900, même s'ils appellent ça un RSX. Parce que justement, on
oublie. Le marketing est là.
Le marketing est là. Mais effectivement, c'est une puce qui a maintenant 3 bonnes années. Donc, effectivement, à l'échelle du PC, on a à peu près.
C'est une bouse.
3 ou 4 fois plus performant de nos jours.
Alors, c'est là où, moi, joueur console, très naïvement, je pose la question de l'optimisation. Puisque sur PC, effectivement, vous avez clairement du matos de fou furieux.
C'est là où on gagne.
Mais est-ce que justement, par le nivellement dont on parlait il y a quelques instants, les développeurs ne peuvent pas se permettre d'optimiser, de pousser dans ces derniers retranchements de la machine, chose qu'ils font sur les consoles qui sont un univers fermé.
Tu mets le doigt là où ça fait mal, c'est la guerre, elle n'est pas équilibrée entre les deux plateformes parce que justement il y en a un qui se base sur du matos qui a 2 ans et qui ne peut pas vraiment aller au-delà, et les consoles au contraire ils vont être au taquet de l'optimisation d'une seule plateforme, ce qui fait que on est quand même, ça sauve un peu la situation. Le deuxième point qu'on oublie extrêmement souvent, c'est que sur PC on joue dans des résolutions beaucoup plus grandes et que ça demande plus de puissance aussi, et avec l'augmentation de la taille des écrans.
Même aujourd'hui avec les écrans HD, de la Full HD,
la résolution d'un écran Full HD est minime par rapport à celle d'un moniteur de 30
pouces.
1920 par 1080, ok, mais les jeux ne sont jamais vraiment calculés dans cette résolution.
Jamais.
C'est-à-dire que, mais jamais du tout. Ils ne sont même pas calculés en 720p ou alors très très rarement. Ils sont calculés généralement dans quelque chose qui ressemble plus à du 800 par 600. Et effectivement, c'est une résolution qui est ridicule. C'est, on jouait là-dessus sur PC il y a une petite dizaine d'années.
Regardez-les là. Ah, non, en train de se regarder.
Mais disons les choses.
Mon cher monsieur.
En fait, ils trichent. Ils travaillent en interne sur des résolutions vachement inférieures. Ouais. Et après, pour l'afficher sur l'écran, ils font de l'upscaling.
Et ils rajoutent par-dessus les éléments d'interface, donc que ce soit les barres de vie, etc., pour que ça soit visuellement attrayant quand même et propre. Et il y a quand même un autre petit problème, qui est lié au PC, c'est aussi la couche logicielle. Et donc là, comme souvent, c'est Microsoft qui est fautif dans le monde du PC. Et c'est DirectX qui a sauvé un petit peu le PC à une époque où le matériel partait dans tous les sens.
Oh putain, oui.
Ou à l'époque de 3DFX, enfin bon, ça,
il y
a eu tellement de choses différentes qu'on ne savait plus quoi acheter. Parce qu'on ne savait pas, tel jeu allait marcher, il nous fallait telle carte pour tel jeu.
Pour prendre un exemple concret, Tomb Raider marchait que sur 3DFX, mais ne marchait pas sur les cartes concurrentes qui étaient des accélérateurs 3D, mais pas avec les mêmes librairies. Il n'y avait aucune harmonisation, c'était un bordel monstrueux. Donc pendant quelques années, après, ça a été un flottement assez relou. Quoi.
Bah, entre trois gros trucs, c'était l'OpenGL, DirectX et le truc de 3DFX, c'était quoi?
C'était le 3DFX.
C'était Glide, ou je ne sais pas comment ça
s'appelle. Glide, ouais. Exactement, bien wesh. Tu avais Rendition, qui était une marque que tout le monde a oubliée depuis. Donc tu avais deux, trois boîtes comme ça qui faisaient des solutions concurrentes. Et finalement, tout ça est harmonisé avec DirectX ou OpenGL. Mais heureusement que c'est arrivé.
Exactement.
Je vois Guillaume qui veut réagir.
Et ce qui a malheureusement un coût en termes de logiciel, puisque le fait de devoir s'adapter à des cartes graphiques de marques différentes, de performances différentes, etc., ça demande une espèce de surcouche qui est le driver, le pilote de la carte graphique, qui sont devenus depuis ces dernières années des choses assez énormes. Quand on les télécharge, ça prend plusieurs dizaines de mégaoctets. Et effectivement, ces choses ralentissent énormément la capacité d'utiliser au maximum la carte 3D, c'est-à-dire oui.
Alors là, je suis très surpris parce que justement, ces drivers-là sont pas censés pouvoir en tirer la quintessence, les fameux catalystes, je crois, pour les ATI.
Les catalystes et les
non, je t'aiderai pas.
Et les forceware chez Nvidia, à moins que c'est encore changé de nom, mais je pense que c'était ça. Et en fait, théoriquement, oui, mais dans la pratique, c'est un petit peu plus subtil. C'est-à-dire que pour chaque jeu, en fait, les développeurs, que ce soit chez ATI ou chez Nvidia, doivent adapter leur pilote au cas par cas pour chaque jeu, parce que tel développeur aura décidé d'utiliser la puce graphique d'une certaine façon ou d'une autre façon.
En gros, c'est des traducteurs, quoi, on va dire, entre le PC et la...
Exactement, il faut qu'il réadapte le code du jeu, en fait, ce qu'on appelle le code des shaders, et qu'il l'optimise pour que ça tourne au mieux sur leur carte.
Alors que
et
sur console, ils parlent en natif au métal, quoi.
Ils ont une...
Il y a une librairie,
il y a un GPU en face, c'est la même pour tout le monde, et on sait où ça va. Et ça peut faire jusqu'à 30% de différence.
C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on est en train de vraiment perdre Julo.
Julo, reviens avec nous.
Oui, j'arrive.
Mais cela dit, sur les drivers, pour terminer là-dessus, c'est que généralement, les notes de version d'un nouveau driver, c'est tiens, tel jeu ne plante plus, donc déjà, t'es content parce que ça fonctionne, et tel jeu, il y a 10% de puissance en plus.
Et là, tout le monde se dit, bah finalement, ça n'a pas changé, le PC, je vais pas m'y remettre.
Exactement. Non, mais c'est un classique. La problématique, elle existe toujours. La problématique de coût, on en parlera, elle est toujours là. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas le choix, parce que c'était le dernier point que je voulais aborder sur vraiment l'expérience jeu PC, c'est qu'il y a toute une frange de jeux vidéo qui n'existe que sur PC, et qui n'existera à terme toujours que sur PC, parce que c'est des trucs super pointus, c'est des trucs qui font un clavier. Bah, je pense au simulateur de train que Guillaume affectionne, par
exemple. Les meilleurs jeux du monde.
Je crois que Julo, il existe des simulateurs de train sur console, hein, qui sortent au Japon.
De conduction de train.
Densha Dego avec la petite manette.
Sauf que moi je parle pas de ça. Je parle de trucs où tu refais tout le réseau ferroviaire dans les années 30 aux États-Unis.
Il y avait A-Train, c'était un des premiers jeux de la PS2 au Japon.
Qui continue à sortir un petit peu sur Xbox et sur l'Xbox Live. Mais bon, c'est. Je suis au taquet sur les jeux de train. Mais effectivement, c'est quand même des jeux qui se font à la souris.
Non, mais globalement,
c'est quand même plus facile de tracer ta ligne.
Au-delà des jeux de train, messieurs, il y a quoi de spécifique sur PC?
Déjà, les RTS sont nés sur PC et restent beaucoup plus jouables au PC, même si c'est en train d'évoluer.
Donc les jeux stratégiques,
voilà.
Enfin, t'auras jamais la même expérience. C'est essentiellement quand même le clavier et la souris qui changent vraiment tout, c'est-à-dire l'interface entre le joueur et le jeu. Quoi.
Alors, juste pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qu'apporte cette interface? Plus de finesse, plus de réactivité, d'options?
En fait, tu sélectionnes tes unités justement une par une, par exemple. Donc, t'as tout un aspect sur les trois quarts des RTS qui est le micromanagement. Donc, on va dire que t'as 50 unités à gérer. Il faut que tu puisses, qui sont différentes, qui font des trucs différents, il faut que tu puisses les sélectionner hyper vite. Donc, rien ne peut aller plus vite qu'une souris pour aller dessus. Les raccourcis clavier te permettent d'aller encore plus vite. Et derrière, bah, ça te permet d'avoir de bouger ta carte, etc. Et tu fais tout en même temps. Et sans aller jusqu'au joueur coréen de StarCraft qui font 200 actions à la minute, un joueur normal de jeu va faire une vingtaine d'actions par minute sur un RTS PC. Pour faire la même chose avec un paddle, tu te tires une balle, ce n'est juste pas possible. Donc ça veut dire qu'il faut réinventer le gameplay du RTS sur console, ce qu'essaye de faire plusieurs
on disait
jeux.
Ça Julo. On disait ça du FPS à l'époque et
mais
au final
FPS, ça reste de la merde sur console, on est d'accord.
Mais non, je suis
mais
d'accord,
ça a beaucoup évolué ça.
Mais non,
beaucoup
mais parce que moi j'ai fini Killzone 2 donc ça va, je suis
mais
je
ouais,
suis pas
puis il y a eu les Halo etc. puis il y a eu des
ça ouais. reste complètement différent parce que justement le gameplay du FPS console extrêmement long par rapport à un FPS PC prévu uniquement pour PC.
Mais en fait, la question, c'est donc pour une question d'optimisation de ta façon de jouer, de ta réactivité, etc. C'est effectivement mieux, mais sinon, maintenant,
non,
y a
le
plus
jeu est pas le même.
Mais il n'y a plus aucun jeu qui n'existe pas. Ou presque sur console.
Flight Simulator par exemple, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Ouais, les simulateurs
mais
de.
Mais
oui,
justement,
Flight Simulator,
est-ce que Flight Simulator c'est pas une série qui s'arrête ?
Qui s'est arrêtée puisque voilà, Microsoft a eu la grande idée après avoir abandonné Train Simulator, abandonne.
Mais qu'est-ce que tu vas devenir, Guillaume ?
Je désespère.
Il pourra plus simuler, putain merde.
Je te prends un exemple, Civilization, ça n'existe pas sur console.
Même si les gens City est injouable sur console comparativement à la version PC.
C'est-à-dire que tu vas intervenir.
Ouais, parce qu'il y a une différence. C'est pas parce qu'un genre existe sur console et sur PC que l'expérience est la même. Et l'expérience d'un FPS sur PC est très différente de l'expérience d'un FPS console, sans jugement de valeur aucun.
Oui,
il y en a qui préfèrent l'un, il y en a qui préfèrent l'autre. Mais tu peux te permettre des game design et des gameplay sur PC qui ne fonctionnent pas sur console, ce qui est justement d'ailleurs le problème du STR et aussi, n'oublions pas le MMO derrière, qui est aussi un des grands genres PC pour l'instant
si
inadaptable sur console.
Si ce n'est le plus grand en ce moment.
Ouais, si ce n'est le plus grand effectivement. Ou donc du coup, les game designers sont confrontés à des problématiques d'interface et de game design qui sont obligés d'articuler autour du fait que tu joues avec une manette et pas avec un clavier et une souris dans ton salon et pas dans ton bureau, etc. quoi.
Juste pour faire un petit point là, dans cette période de première partie du podcast, on va bien évidemment parler là, en ce moment, de l'expérience jeu. Ensuite, on va développer un peu sur le matériel, parce que là, il y aura beaucoup de choses intéressantes à dire, voir l'évolution passée, puis aussi ce qui nous promet l'avenir. On va parler aussi, Kev, tout à l'heure, un peu des systèmes d'exploitation et l'arrivée de Windows 7,
il y en a des
qui pourrait changer pas mal de choses, en tout cas, ça, c'est intéressant. Oui. L'avenir aussi du PC, qui passera peut-être, probablement, par l'online, en tout cas, ça, vous nous en parlerez, Guillaume et Kev.
Et qui montre l'avenir des consoles, souvent.
Exactement, et puis on parlera aussi de jeux, hein, avec les titres les plus attendus, les immanquables, ce genre de choses, ce sera très intéressant. Mais on conclut là sur cette partie de l'expérience même du jeu et pour rebondir un peu sur ce que disait Raon à très juste titre, est-ce que le fait quand même que de plus en plus de titres soient maintenant du multi-support, donc à la fois sur console de salon, donc pensez manette, et sur PC n'est pas au détriment un peu du PC? J'avais entendu parler de beaucoup de personnes du monde PC qui critiquaient un peu l'Oblivion parce qu'il avait été un peu pensé console, le fait d'un Fear par
Mass
exemple
Effect
très récemment
aussi.
Mass Effect, pensé très console à la base et du coup bah, pas refondu pour la version PC, du coup peut-être optimisé bien au PC clavier souris mais peut-être pas trop dans l'interface.
La plupart des plaintes c'est souvent des questions d'interface, c'est que tu te dis t'as eu l'habitude sur PC pendant très longtemps sur un RPG, donc typiquement puisqu'on a parlé de Mass Effect et de Elder Scrolls 4 Oblivion, c'est ça que tu cliquais, voilà, tu cliques dans ton truc, c'est facile, c'est rapide, c'est intuitif. Quand tu dois passer par une interface manette, t'as des menus, des pans et des trucs que quand tu les transposes directement sur PC, t'as l'impression de faire un pas en arrière en termes d'ergonomie, quoi. Donc ça c'est un des trucs qui est pénible pour les joueurs PC. Mais ça n'empêche pas qu'après le jeu lui-même, bon,
il
n'y a pas de différence en soi.
Mais après, c'est des gameplays qui sont pensés console, donc forcément, le joueur PC va être un peu peiné, on va dire, poliment.
Frustré, oui, parce que la grosse différence, c'est quand même qu'une souris, c'est beaucoup plus précis au niveau du pointage que ne le sera jamais une manette où, effectivement, on n'est pas. On peut se diriger de gauche à droite, mais c'est jamais très précis. Il y a toujours des aides au tir dans les FPS, par exemple, sur console, qu'on n'a pas effectivement
non,
sur.
Non, qu'ils ont deux, ils n'ont pas mis, on en chie grave.
Voilà.
Enfin, ceci étant, il y en a certainement, tu vois, la manière de gérer l'analogique.
Elle est cachée. Mais non, clairement, le seul truc, c'est que pour finir sur les RPG, c'est avec les menus, en fait, tout ce qui est gestion de menus, d'inventaire, etc. Si c'est pensé pour les consoles, ça veut dire que sur le PC, ça ne sera pas pareil.
Raon.
Il y a aussi une différence qui mériterait à elle seule une grande discussion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'il y a des joueurs PC et des joueurs consoles. Mmh. Moi, personnellement, j'en fais pas partie. Je pense qu'il n'y a que des joueurs, quoi, en gros, et que moi, personnellement, je joue sur PC et sur console. Mm-hmm. Enfin, je joue plus sur PC maintenant parce qu'il faut que j'achète une machine, mais bon, c'est
un autre problème.
Mais bref, donc, quelque part, il y a quand même eu des habitudes de jeu qui ont été forgées par ces plateformes et ces interfaces qui font qu'un RPG sur PC, un game designer qui veut faire un jeu, un RPG PC typiquement, ce qu'on va peut-être voir d'ailleurs prochainement avec The Witcher qui va être adapté sur console et qui a à la base un développement typiquement PC, mais tu focalises sur des piliers de game design qui ne sont pas les mêmes.
Non.
Tu ne vas pas forcément chercher une histoire hyper forte, tu vas plutôt chercher de la liberté par exemple, etc. Donc ce n'est pas les mêmes axes, ce n'est pas les mêmes expériences et il y a vraiment des différences fondamentales même dans des genres très déclinés sur tous ces supports entre le PC et les consoles.
Je suis complètement d'accord.
Nous sommes, je crois, unanimement d'accord sur ce point-là. En tout cas, ça, c'est ce qu'on pouvait dire un peu sur l'expérience de jeu PC, dédié au PC. On y reviendra tout à l'heure. On parlera aussi de questions un peu polémiques. Est-ce que, finalement, le joueur PC n'est pas un joueur en voie de disparition? On verra, puisque...
Ça fait des années qu'on a...
On se pose souvent la question.
Ça fait des années qu'on nous dit.
Ça fait 15 ans.
Exactement. Et c'est pour ça que quand on a deux spécialistes face à nous, et ben, on leur posera la question et vous nous donnerez votre réponse.
Il y en a un qui a déjà la tête presque toute blanche, quand même. Il est en voie de disparition.
Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est essentiel sur le PC, vous l'avez déjà spontanément abordé tout à l'heure, c'est le matériel, cette espèce de course à l'armement qui visiblement, en tout cas, passionne vraiment les joueurs PC. Et on comprend pourquoi, parce qu'effectivement, c'est des bécanes qui, un, coûtent cher, qu'on a donc envie de rentabiliser et d'avoir de belles images face à ses yeux. Mais alors, c'est quoi aujourd'hui un peu la tendance? Est-ce qu'on pourrait sortir un petit peu des configurations type, un peu bas prix, médium, un peu plus osé pour s'éclater un peu sur son PC?
Les choix sur PC, ils sont assez faciles par rapport à il y a encore quelques années, puisque maintenant on est vraiment dans des trucs binomiques, c'est Intel ou AMD pour le processeur, c'est ATI ou Nvidia pour la carte graphique.
Exactement.
Et après, tu as quelques petites astuces à connaître qu'il faut lire sur quelques sites spécialisés, etc., sur lesquels travaille par exemple Guillaume.
Voilà.
Où tu vas avoir justement des informations sur des trucs qui sont moins mis en avant d'un point de vue marketing, qui vont être la carte mère, la marque de la mémoire, la marque du disque que dur, des trucs qui sont pas du tout sexy pour le commun des mortels, mais c'est bien d'avoir un état de l'art. Au moment où tu achètes ta machine, tu te rencarnes un peu comme quand tu achètes un lave-vaisselle. Sauf au moment où tu l'achètes, quoi. Tu vois.
Il y a des assembleurs type Dell ou machin qui commencent à faire des machines de jeu qui sont valables aussi maintenant.
Ça commence à venir. Dell a fait des efforts là-dessus. Ouais. Ça commence à venir.
C'est en dents de scie. Ils ont encore du mal et parfois ils vont encore faire une machine où ils ont économisé 5 francs 50. Oui. Moi j'ai vu des trucs complètement idiots sur des machines de gamer, donc un peu cher avec des configurations complètes où les mecs te
quand tu dis un peu cher, on se trouve dans quelle fourchette?
Un peu cher, là moi je parlais d'une bécane qui est dans les 1500 euros, donc d'accord. Là on est quand même sur une bécane un peu chère, pas surtout par rapport à ce qu'ils mettaient dedans en termes de processeur, etc., sachant que si tu avais fait la même à la main t'aurais eu mieux. Et les mecs vendaient un truc qui est vachement recherché parce que voilà, les PC ça fait un peu de bruit, etc., donc leur bécane elle était avec un refroidissement liquide. Sauf que sur cette bécane, le mec de base il est content, il achète ça et voilà, très bien, sauf qu'ils avaient mis un tout petit ventilo pour refroidir la flotte en question. Tu mets des grands ventilos qui tournent très lentement, qui font pas de bruit, c'est tout le but de ce truc là. Et là non, ils ont mis un petit ventilo, donc les plus petits, les plus horribles que tu puisses mettre.
Qui s'énervait un petit peu au niveau du volume sonore, quoi.
Ah bah c'est un truc que ça fait ça, et c'est complètement con. Bah,
tu as un moustique dans ton PC,
on va un PC silencieux avec un ventilo qui fait le plus de bruit possible, quoi.
Les assembleurs PC sont capables du pire comme du meilleur.
Bon, alors justement, soyons pragmatiques, soyons donnons des bons conseils et surtout les pièges à éviter, messieurs. Vous parliez tout à l'heure la Intel contre AMD. Aujourd'hui, donc ça, c'est dans la lutte un peu des cartes mères.
C'est les processeurs,
en fait. Les processeurs.
Ouais. Alors, oui, on parle.
La carte mère dépend du processeur.
La carte mère va dépendre du processeur.
C'est ce que je voulais dire.
Ça, c'est vu, c'est magnifique.
Donc, la question, c'est qui? Alors là, tu sais,
c'est la deuxième balle. Celle-ci était vachement mieux placée. Bravo.
Non, bah justement, c'est Wiz, il va nous faire un truc très bien parce que lui, il teste tous les processeurs qui sortent, même des trucs pas finis. Alors, le but, ça va être de nous dire on achète quoi en ce moment, AMD ou
on achète quoi en ce moment?
Ma bonne dame.
C'est ma bonne dame, et c'est une très bonne question. On achète combien de cœurs déjà? Alors, ça paraît un petit peu bête, mais sur le marché, on a des puces double cœur, triple cœur et quadruple cœur. Donc, c'est ce qu'on appelle un cœur, en fait, c'est le nombre de processeurs qui est à l'intérieur d'un processeur, puisqu'ils sont maintenant capables de faire plusieurs choses en même temps. Ah oui, désolé pour la ménagère de moins de 50
ans. C'est une vraie plus-value, ça?
Ça n'existe plus, les processeurs monocœur déjà, donc de toute façon, c'est fini.
Pourtant, il y a encore 2 ans, ça n'existait pas.
Mais c'est parce que la technologie, en fait, on a changé, au lieu d'aller maintenant dans des vitesses qui augmentent en permanence.
De cadence, les mégahertz, les fameux, les gigahertz, même maintenant.
Tout ce que tu veux. Maintenant, on est sur un combien de cerveaux on va mettre à l'intérieur d'une puce.
Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement en même temps.
Parce qu'il y a du vrai là-dedans, ils ne peuvent plus faire autrement, ils ne peuvent plus faire augmenter la fréquence. Donc, on obtient les performances en démultipliant la capacité d'un processeur de faire des choses en même temps.
Là, c'est tout bête, c'est une question candide, mais pourquoi soudainement on peut plus augmenter la fréquence?
Ça va être des raisons très techniques de fabrication des puces.
C'est des lois de la physique.
C'est des lois de la physique. D'accord. Parce qu'on commence à arriver à des parties du processeur qui font 5 atomes d'épaisseur.
Ah oui.
Là, ça devient très compliqué de faire plus petit.
Ton électron, il veut plus rester dans la ligne que tu lui as tracée. Il va commencer à faire n'importe quoi. C'est juste pas possible.
Et est-ce que la fameuse loi de Moore qui voudrait que tous les 18 mois ça double
En termes de puissance, maintenant on est passé d'une vitesse, on fait du traitement parallèle.
C'est justement à ça que sert le multicœur, entre guillemets, le fait d'avoir dédoublé, c'est la capacité de suivre la loi de Moore qui est la chose qui fait tenir toute l'industrie de l'informatique. Et toute l'industrie de l'informatique est basée là-dessus. Et le multicœur, en ce moment, est la solution qu'ils ont trouvée pour faire ça. Ce qui ne va pas forcément durer très longtemps, mais ça, on en parlera peut-être à la fin.
Les pauvres.
Alors donc on choisit qui ?
On choisit plutôt un processeur double cœur si on n'a pas beaucoup d'argent, parce qu'effectivement, c'est ce qui est le plus rentable rapidement.
Et surtout pour les jeux.
Et surtout pour les jeux, puisque 4 cœurs, il y a très peu de jeux qui savent les utiliser, sauf GTA 4, qui est un espèce d'ovni sur PC pour ça.
J'avais un autre mot, moi, mais c'est pas grave.
Oui. Et effectivement, ça pourra évoluer d'ici un an peut-être avec Windows 7, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais en attendant c'est plutôt un processeur double cœur. Si c'est un double cœur, c'est plutôt chez Intel. Les cores de Duo, c'est grosso modo la valeur sûre. On peut difficilement se tromper avec
rapport qualité-prix de folie, en fait.
Justement, on est dans quelle gamme
on est entre 130 et 200 euros à peu près pour le processeur.
Ok.
Donc, et là, on est vraiment sur un truc qui tient...
On est sur quelque chose qui peut tenir la route pendant... Voilà, c'est le E8600, 3,3 GHz à peu près, pour donner des références. Ça peut tenir 2 ans...
En étant au top.
Au top, voilà. D'accord. C'est-à-dire pour faire tourner
les
jeux.
Donc un achat pérenne de qualité.
Achat pérenne. Si on a vraiment envie de voir très très loin, on peut aller voir du côté du Core i7, qui là est un processeur quadruple cœur.
CAF semble bouillir. CAF en a un.
Ah non, moi j'ai acheté, j'ai dépensé de l'argent, il était très cher, il est toujours très cher. Pour un
290 euros.
Voilà, pour me faire plaisir, sachant très bien.
Et pour pouvoir le dire ce soir.
Pour le jeu, ça sert à rien, quoi.
J'ai du cœur, les mecs.
Non, ça va me servir pour GTA 4.
Ça servira. Voilà, ça ne sert à rien. Ça sert. Non, non, il faut dire les choses.
C'est vrai.
Il faut dire les choses vraiment.
J'assume complètement.
Le quadruple cœur, à part dans GTA 4, tu ne vois pas la différence actuellement. C'est triste à dire, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est limité par tous ces gens qui ne changent pas de machine tous les ans. Ouais, et qui sont très ennuyeux.
Peut-être pauvre.
Les pauvres.
Les pauvres du matos.
Vous pouvez envoyer vos courriers à Guillaume.
Qui vous enverra des processeurs. Vous les payez pas, les processeurs. C'est pas de quoi il parle.
C'est bon.
Mais c'est vrai que.
Ça coûte combien alors un processeur 4 cores, que je rigole, qui ne sert donc à rien ?
290 euros.
Voilà. D'accord.
Auquel on rajoute. Auquel on rajoute 200 euros de carte mère.
D'accord.
Parce qu'évidemment.
C'est les plus chers, évidemment.
C'est les plus chers. Enfin bon.
Généralement, dans ce genre de cas, les politiques, on leur demande « Est-ce que vous savez combien coûte la baguette de pain, mon bon monsieur ?»
Et oui,
lui, il sait,
mais je ne le dirai pas.
Très bien.
Mais donc, non.
Alors, à ça, on adjoint quoi pour avoir une machine
Alors, avec le...
Il y a la carte graphique, j'imagine.
Il faut la carte mère, déjà, pour faire, sur laquelle on pose le processeur. Mm-hmm. C'est une espèce de...
C'est le coordinateur, en fait.
Exactement, c'est le coordinateur, c'est le...
C'est beau,
magnifique.
Tu m'impressionnes.
Ouais, moi aussi.
Donc il y a des marques qui sont meilleures que d'autres, va dire, qui sont généralement plus réputées. Donc plutôt Asus et Gigabyte, qui sont les deux marques généralement vers lesquelles on peut se tourner pour des raisons de fiabilité, de support aussi dans la durée de vie du produit, parce que parfois prendre une marque un petit peu moins connue, c'est s'ouvrir des problèmes quand un nouveau système d'exploitation arrive, par exemple.
Ah oui.
Et là, on ne trouve plus le support. Donc là, c'est vraiment important de choisir une marque réputée.
Je nuance juste pour les gens qui ont, par exemple, une Asus avec plein de merde. Après, ça varie énormément d'une série à l'autre. Par exemple, Asus va faire une carte avec un chipset. Le cœur, ce qui correspond vraiment à la carte mère, est construit autour d'un jeu de puce qu'on appelle le chipset. Il y a Nvidia qu'on a fait. Il va y avoir des problèmes. C'est pas non plus que de la faute d'Asus. C'est juste, ça peut arriver que ça marche mal.
Il faut faire attention aussi. Généralement, alors il y a des statistiques qui ont été publiées par un site qui s'appelle HardwareFR, assez connu. Salut Marc. Et effectivement,
Marc
qu'on remercie, a publié des statistiques de retour en garantie des cartes mères. Effectivement, on voit qu'il y a des marques de chipsets qui ont plus de problèmes que d'autres.
Et ça fait peur.
Alors, on va les citer aussi.
Nvidia
a quelques gros problèmes.
Informons.
Voilà. Donc, généralement, La règle, si on prend un processeur AMD, on choisit une carte mère à chipset AMD, mm-hmm. qui sont en fait des chipsets ATI, mais comme ATI a racheté AMD, bref.
Non, AMD a racheté ATI.
Oui, tout à fait. C'est la fatigue.
C'était bon ça, Julo.
C'est la fatigue. Et Intel, effectivement, prend une carte mère à chipset Intel quand on a un processeur.
Bien sûr,
Intel.
Histoire d'avoir le. Ils doivent mieux
communiquer
ensemble.
Disons que c'est pas bien. C'est pas bien de pas promouvoir le.
La consanguinité, en fait, c'est bien sur une carte mère.
Exactement.
Exactement. Voilà. D'ailleurs, et quand t'es un frileux comme moi sur des nouvelles technologies, quand j'ai pris le Core i7, j'ai pris une carte mère Intel carrément, donc avec un chipset Intel.
Qui fait aussi des cartes mères, effectivement, qui voilà. sont pas mal.
Qui sont pas mal. Mais il y a un support de la mort.
Il y a un support
et
qui
ça, c'est bien.
Très, très bien fait.
Donc voilà, donc ça, c'est. Le pros
et la carte mère.
On est désolé après, pour AMD, mais en ce
la
moment.
Mémoire...
Oui, non, peut, quand même, AMD, si on veut un processeur, ils ont un processeur triple cœur qui s'appelle le Phenom 2 X3720. Alors je donne juste la référence. Voilà.
Les marques déchirent.
Exactement. Ah oui, non, non. Et ce qui est, on pourrait dire un petit quelque chose là-dessus, c'est que Gillette, fabricant de rasoirs, quand même, s'amuse à reprendre toutes les marques d'AMD. Donc ils ont sorti le Gillette Fusion et là ils ont sorti le Gillette Fusion Phenom, qui est un rasoir. Et si tu regardes, Fusion et Phenom étaient deux marques qu'AMD a sorties. Exactement. Donc alors je sais pas si je sais
pas si Gillette fait un procès à AMD ou
l'inverse. Alors je sais pas s'il y a des fans ou s'ils ont un deal ou quelque chose, mais là c'est très marrant. Tous les 6 mois à peu près, tu vois une nouvelle marque d'AMD qui est pillée par Gillette. Donc alors
et le tricker AMD alors
et le tricker d'AMD donc à part ça, il coûte à peu près 150€. Il est pas cher, il est plutôt efficace et c'est pas mal. Donc d'accord. C'est une alternative tout à fait envisageable.
Ok.
Voilà.
On parle du gros du pour les gamers de ce qui va nous permettre d'optimiser, enfin de tirer le meilleur de son PC, avant de parler des disques durs, et là il y aura pas mal de choses à voir parce que c'est
la mémoire
aussi,
c'est vrai.
La mémoire bien sûr, mais les cartes graphiques.
Ouais. Le marché de la carte graphique.
Ça a beaucoup changé sur les dernières années.
Ça a beaucoup changé ces dernières années. On était habitué en fait à voir tous les ans, grosso modo, une multiplication par deux des performances. Mm-hmm. Là, on va être clair, c'est un petit peu terminé. Depuis deux ans, ça c'est vraiment une stagnation des gains de performance qui a été vraiment très, très, très,
alors,
très forte.
Alors qu'il y a quoi ? Parce que tout à l'heure, en préparant ce podcast, c'était assez intéressant, je trouve, révélateur. Vous parliez tous les deux, Guillaume et Cave, de Crysis, qui est donc un jeu qui était très en avance il y a déjà deux ans et qui finalement tourne au top, avec toutes les options à fond, etc., que sur très 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 peu de machines, voire
et
pas.
Voire pas beaucoup, parce qu'effectivement, et donc bon, on peut dire que c'est la faute des développeurs de Crysis, mais il fut un temps où les développeurs de jeux sur PC pouvaient se dire, d'ici un an, la puissance qui sera dans les machines sera le double de ce qu'on a maintenant. Effectivement, ils ont commencé le développement de Crysis, ils se sont dit, eh bien... on va avoir ça comme puissance disponible pour notre jeu, utilisons-la. Et malheureusement, pour eux, ça ne s'est pas passé comme ça. Ils sont tombés à un moment où il y a eu une stagnation. Alors, pour des raisons multiples, il y a eu un manque de compétition, parce que ATI a eu une passe très difficile et a été racheté en plus par AMD. Donc, ça a été...
Du coup, Nvidia, c'est un petit peu...
Nvidia, c'est
au soleil,
un petit peu...
bronzé.
Voilà, exactement, disons-le.
Ils ont
tout simplement.
Ils ont temporisé, justement, en se disant, bon, bah là, on a un peu de marge, on va pas y aller.
On a
Sony
arnaqué.
Ouais, voilà.
Exactement. Donc, il y a eu beaucoup de projets, en fait, qui ont été annulés ou qui ont été retardés. Et effectivement, les vraies grosses nouveautés, on va les voir arriver peut-être avec Windows 7. Mais depuis deux ans, depuis le jeu Forsuite, en fait, les 8800 GTX, on a eu une toute petite amélioration des performances, une fois et demie à peu près, en deux ans et demi.
Donc tu disais mauvaise passe d'ATI, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'histoire de rachat...
C'est terminé, ils sont...
Ça y est, c'est bon.
Là, ils sont revenus au taquet, puisqu'en fait, ATI est revenu avec une nouvelle stratégie, vu que, effectivement, la course aux performances s'est un petit peu calmée dans les cartes graphiques, ils ont dit, on va faire baisser les prix, puisque les prix n'avaient pas vraiment non plus baissé pendant ce temps-là. Et donc, maintenant, on peut acheter, grosso modo, pour 150€, une carte qui va faire tourner à peu près tous les jeux. Quelque chose qui n'était pas possible il y a deux ou trois ans. Il faut quand même le dire. Là, aujourd'hui, pour 150€, on peut avoir une carte, la Radeon HD 4850, capable de faire tourner, mais vraiment tout. Donc... Et dans des bonnes conditions, avec quasiment toutes les options à
faire. Et va faire pouvoir tourner les jeux aussi qui vont sortir d'ici un an, ou c'est vraiment les jeux de maintenant et ça
les jeux
d'être
de maintenant,
un peu juste après.
Et de toute façon, il y aura... Alors, on ne sait jamais où vont aller les développeurs, mais il y a un tel tassement en fait, du marché que normalement, avec une carte graphique, on peut jouer correctement pendant deux ans.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, tout à l'heure, on disait le PC toujours en avance, mais alors finalement, s'il y a un tassement, bah, les marchés consoles et PC vont se suivre de manière parallèle.
Non, mais oui, on, puisque on a déjà 4 ans d'avance.
Voilà, on a déjà 4 ans d'avance.
Oui, oui, mais vous savez pas optimiser.
Non, mais alors, c'est pas ça. La PS4, c'est surtout que le temps que qu'une PS4 ou n'importe quoi sorte, on en sera encore. L'avance, elle est de toute façon mathématique.
Et puis là, en fait, on est sur un plateau. C'est-à-dire que finalement, tout ce qu'on dit là, ça va être valable pour peut-être les 6 mois ou l'année à venir. Et puis après, ça va se redécanter à nouveau.
On en parlait tout à l'heure. C'est surtout que là, on est à un tournant sur ce que veulent faire technologiquement les mecs.
Ils vont chercher ailleurs.
Voilà. Donc, on en parlait pour les processeurs tout à l'heure. On a arrêté de monter dans les fréquences. Maintenant, on fait du calcul parallèle. La même chose, grosso modo, est en train de se préparer pour les processeurs graphiques. Et ça va encore.
Et leur éventuelle fusion, on en reparlera.
Voilà.
En gros, une belle phase de transition qui va nous permettre de nous projeter encore vers le plus haut. Exactement. Après, peut-être même plus fort.
Et qui concernera les consoles.
D'accord, intéressant. Raon.
Ouais, là, justement, moi, ça me fait peur parce que. Donc là, mon dernier PC est mort à cause d'une carte mère Asus.
Damien, si tu nous écoutes.
Damien, magnifique.
Damien qui est le responsable donc là, presse d'Asus.
Ça m'emmerde quand même parce que j'ai un peu super envie de me racheter un PC pour faire mes muses. Mais du coup, justement, avec Windows 7 qui n'est pas encore là et qui va changer pas mal de choses, et cette histoire de plateau et de technologie qui sont sur le point de changer avec les SSD, etc., dont on va reparler, je me dis, c'est pas le bon moment pour acheter un PC de jeu.
C'est jamais le bon moment.
C'est, voilà.
Alors, justement, ça historiquement jamais été le bon moment, mais est-ce que là, c'est particulièrement pas le bon moment?
Non, non, justement, là, je pense pas parce qu'on a un rapport, on peut monter un PC de jeu.
Intéressante comme question.
Le rapport qui est démentiel. Non, parce que je
Julo qui ne jouera jamais sur PC depuis PlanetSide, hein, c'est mort.
Oui, c'était génial, PlanetSide.
On en parlera tout à l'heure avec toi, Julo.
Attendez, c'est l'intervention de Julo dans le podcast. En attendant, celle sur Shenmue 3. C'est pas quand elle va arriver, mais à tout moment, hein, soyez prêts.
Donc, non, clairement, pour les PC, faut être très clair. On peut faire une config de joueurs vraiment bien à 1000€, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore pas longtemps.
Voire même moins. On peut
oui, non, quand je dis 1000€, on a une
1000€,
vraie
on a une
belle
config de luxe.
Non, je parle de luxe avec l'écran. Hein.
Avec l'écran, oui, tout à fait.
Donc c'est un truc config, c'est un truc qui n'était pas possible. Là,
parce, ouais. Parce qu'avec une config, on va dire low cost, mais sans être
on
péjoratif,
peut jouer
hein,
au minimum une config pour de 600-700€ et dans des conditions très confortables.
Avec écran là?
Avec écran.
Ah, d'accord.
Eh oui, je mets l'écran pour le même prix.
Fantastique. Vous adresserez donc vos demandes à Guillaume Louel.
Et un PC haut de gamme comme j'ai monté, donc avec les trucs qui venaient de sortir au moment où ils étaient le plus chers, etc. Oui. Moi, ça m'est revenu à 1500€ sans l'écran, ce qui reste hyper raisonnable quand tu te places par rapport au marché. Si tu
à l'échelle de ce qu'a été le jeu sur PC sur ces 10 dernières années, c'est ridicule. Parce que justement, il y a eu.
Pour donner une idée, moi, mon PC qui est mort, il coûtait 2500€ quand je l'ai acheté.
Voilà, voilà.
Il a mal un peu là. Il est tout rouge.
Donc, où t'y soyez-vous ? Ok, donc sur la carte graphique.
Donc plutôt, selon le budget, Radeon HD 4850 ou 4870.
Qui est super bien, c'est ce que j'ai.
Ce sont les deux bonnes références pour entre 150 et 200€ à peu près. Avec ça, on joue très très bien. On peut investir plus. Après, c'est plus une question d'écran. On en reparlera un petit peu.
Si on veut parier sur l'avenir, quels sont les
bons paris? On parie jamais sur l'avenir avec une carte graphique.
Ben voilà, c'est une réponse.
Voilà. ça sert à rien d'investir trop cher en fait.
Par contre, avec un 4 coeurs, tu peux.
Oui, parce que les processeurs évoluent différemment en fait. Alors que on trouve en fait des cartes graphiques avec plusieurs processeurs, c'est ce qu'on appelle le multi GPU. Alors c'est les technologies SLI chez Nvidia et Crossfire chez ATI. Qui ne sont pas forcément toujours très...
C'est un nid en merde.
C'est un nid en merde, voilà. Je cherchais une manière polie de le dire.
Ça ne faut pas.
Ça sert à rien, c'est un nid en
merde. C'est plutôt des emmerdes.
Mais en tout cas, ce que je note, c'est que donc, c'est plutôt du côté de chez ATI. Nvidia s'est reposé pendant quelques années.
Nvidia
en attendant
s'est reposé
que ATI
et
se
n'a pas forcément de produits à mettre en face.
C'est étonnant quand même, ça, de la part d'un des gros de cette industrie.
C'est vrai, au lieu d'enfoncer le clou comme des gros porcs.
Ils sont loin du rapport qualité-prix qu'a sorti ATI, ça les a surpris, s'y attendaient pas.
Exactement. Et là, ils sont un petit peu embêtés, puisqu'il y a des raisons techniques de fabrication. On va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais grosso modo, jusqu'à DirectX 11, ça va plutôt être ATI.
Je voulais juste temporiser un truc sur les processeurs. Tout à l'heure, on disait 2 corps, machin, 4 corps, ça sert à rien pour le jeu. Maintenant, je temporise juste avec quelque chose, c'est que sur PC, on fait rarement qu'un jeu. Maintenant, c'est souvent qu'on va avoir son jeu en mode plein écran, avec un navigateur internet, un truc de discussion vocale lancé, des logiciels divers et variés qui tournent en même temps. Le 4 corps permet de faire tout ça en même temps et de jouer dans des très bonnes conditions. Ce qui est vraiment un confort qu'on n'avait pas à l'époque des Pentium 4, Monocœur, etc. C'est une vraie révolution dans la manière de jouer, parce que le joueur PC est beaucoup plus multitâche que le joueur console finalement, qui est vraiment concentré dans son univers, etc. Je prends un exemple du mec qui est sur un MMO, qui a une seule machine. S'il est en train de jouer à World of Warcraft, le gars il veut avoir son site web ouvert pour avoir des infos sur les quêtes, il est en train de discuter sur internet avec des potes sur un site quelconque, il fait plusieurs trucs en même temps. Donc le 4 coeurs, c'est juste que ça permet de fluidifier toute cette utilisation multitâche, quoi.
Voilà, il sert pas à rien alors ton 4 coeurs.
Non, complètement, mais je parlais vraiment du jeu pur. Pour le jeu lui-même,
il ne va pas rendre le jeu plus rapide, voilà. Mais il va rendre l'expérience sur PC plus agréable.
Le PC, c'est le multitâche.
Exactement.
Je dirais même, c'est le multimédia.
Oh ouais, oh.
Qu'on nous a bassiné dans les années 90, le multimédia débarque.
Ce que j'allais dire, c'est tellement en 1995 en fait. Dire ça.
Sauf qu'on y est en 2009, 10 ans après.
Exactement.
Ok, donc clairement une préférence en tout cas ici du côté des cartes graphiques ATI.
Ouais, plutôt, oui.
Et en puis alors, il faut se tenir au courant parce qu'effectivement, ça change tous les 6 mois.
Oui. C'est très difficile d'avoir une préférence pour une marque ou une autre. Voilà, c'est vraiment une question au coup par coup.
Aujourd'hui, voilà. on est en mars 2009.
Aujourd'hui, c'est ça.
Aujourd'hui, la meilleure, rapport qualité-prix, c'est
peut-être.
Carte graphique ATI. Parlons des disques durs parce que apparemment il y a une valse de modèles défectueux ces derniers temps. Ouais. Il y a des marques plus ou moins fiables et pourtant c'est très important parce que c'est là où transitent les informations. C'est crucial sur la conception d'un bon PC.
Ben voilà, donc pour vous dire, j'en ai cramé 4 depuis le début de l'année, donc le disque dur ça n'arrive pas qu'aux autres. J'en avais pas cramé pendant des années, tu vois.
C'est votre Red Ring of Death à vous, en fait.
Ouais, exactement. Et t'as des marques qui sont maintenant un peu plus fiables que d'autres. Ça reste toujours dans des proportions au niveau des retours SAV.
Exactement.
Ça joue quelques pourcents, hein, donc
oui,
c'est pas énorme.
Le maximum c'est 3% de SAV à peu près sur la première année. Donc
j'ai vraiment pas eu de bol. Et puis j'ai continué parce que j'en ai racheté des neufs qui ont des problèmes de firmware, donc c'est le petit logiciel qui gère le disque dur, mais je le savais quand je l'ai acheté parce que j'étais sur internet, tout ça, j'étais renseigné. Et ça veut dire que derrière j'avais des manips à faire pour que justement un jour je me réveille pas avec un PC où le disque dur, quand tu l'allumes, il s'allume pas en fait. Donc c'était un petit bug qui est chez Seagate, et c'était pas de chance en termes d'image. Parce que Seagate est pour moi la meilleure marque actuellement. C'est quand même pas de bol pour eux, quoi.
Et il faut quand même dire que c'est un problème, mais alors d'une rareté extrême, comme on en voit à peu près tous les 5 ans.
Et grâce à Internet, ça a pris une proportion mais énorme.
Internet et les gonflements.
Exactement. Donc ça a explosé. Ils ont sorti des corrections. Et là, Seagate, je recommande mais 1000 fois cette marque parce que le disque dur, c'est quand même le truc qui est dans les entrailles de ton PC. Tout le monde s'en cogne. C'est la marque qui m'a fait le support où j'étais le plus bluffé ces dernières années en support technique. C'est-à-dire que j'étais sur le site web de Seagate. T'as SAV machin, tu cliques, et là j'étais en relation avec un mec, un américain, parce que vu comment il parlait, c'était pas un indien en Inde, c'était un vrai ricain. Et t'es en chat en direct avec le mec, et il te dit voilà, vous avez quoi comme problème? Bah voilà, j'ai cette marque là, il paraît qu'il y a un firmware, je trouve pas sur le site et tout. Et le mec fait ah oui, pas de problème, bah écoutez, on va vous envoyer un mail avec la version bêta du firmware, pas de soucis, mais il faut que je demande à mon boss machin. C'était surréaliste. C'est un service que t'as d'habitude, pour donner un exemple aux joueurs, c'est dans les trucs, dans les bons MMO.
Ouais, c'est okay.
Tu vois ce que je veux dire?
Je vois très bien ce que tu veux dire, oui.
Parce que Raon qui a travaillé là-dedans, et ça veut dire que les mecs, ils avaient un call center, enfin un chat center avec des mecs pour vraiment gérer cette crise, et en fait, ils l'avaient déjà créé avant. Et c'est les seuls à avoir ça.
Il a bien servi.
Et il sert. Et j'ai reçu mon truc en un jour. Enfin, le lendemain, j'avais le mail avec le truc qui va bien.
Et t'as résolu ton problème.
Et j'ai résolu mon problème. Et là, je fais bravo les gars.
Donc Seagate,
et c'est des disques silencieux qui chauffent pas. Donc moi j'ai.
C'est quoi la base aujourd'hui d'un bon disque dur? C'est parce qu'avant il y avait l'histoire de la valse des tours minutes. Là, on était à 7200.
Ouais, mais
je me suis arrêté là. Moi.
En termes de perf, ils se tiennent tellement tous dans un mouchoir de poche que maintenant.
Puis les prix ont chuté. Hein.
C'est une question de service. C'est une question de taille. Après, on a besoin de plus ou moins de place pour stocker ses jeux selon le nombre de jeux qu'on va installer. Plus c'est gros, mieux c'est. Etc.
Size matters.
Voilà. Et donc c'est les deux bonnes marques. C'est Seagate et Samsung, voilà. Généralement, qui sont les deux marques. Bonne marque de disque dur. Oui, tout à fait.
Donc j'en ai cramé un au début de l'année. Hein, voilà,
j'en ai cramé un aussi.
Et ça reste une bonne marque.
Et ça reste une bonne marque parce que dans le.
Mais comment vous les cramez là? Je veux savoir.
Moi, je sais. Hein. Moi, j'avais mon PC, il avait un bug extraordinaire, ouais. Sur la carte graphique d'ailleurs, hein, que je vous explique pas parce que c'est un truc bien technique et j'ai mis à peu près 6 mois pour le trouver. Mais mon PC, en fait, plantait de manière complètement aléatoire. Et il y a un moment, quand ton PC il plante vraiment violemment comme ça, tel très souvent, statistiquement, il y a un moment où le disque dur il a mangé, la tête de lecture n'était pas bien parquée, il n'a pas eu le temps de se ranger, etc. Ça a dû faire quelque chose et j'ai des secteurs en fait qui sont devenus irrécupérables sur le disque. Vraiment pas content.
Voilà. Ça, c'est malheureusement les petits trucs. Moi, c'était une histoire de résonance à l'intérieur du boîtier. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de vibration qui faisait que la rotation des têtes du disque vrillait en fait, et donc ça faisait un problème, et donc j'ai cramé comme ça 3 disques à la suite au même endroit, et il m'a fallu quand même
T'imagines le bec, il fallait juste le changer de bec.
Il fallait le changer de bec et là il n'y avait plus de problème. Donc ça c'est.
Voilà, c'est aussi ça le bonheur du PC.
Alors sinon vous avez la PS3, la Wii,
la Xbox 360.
Et c'est pour ça. Et c'est pour
même
ça
la DS et la PSP.
C'est pour ça que quand on veut jouer sur PC et pas être emmerdé, etc., même si nous on aime bien les monter, etc., je recommande.
Allez voir un assembleur.
Voilà, allez voir un assembleur. Un mec en monte 50 par jour, le gars, même ça, même lui, il saura bien le faire. Quoi.
Mmh. Exactement.
Je parle même pas toujours. Mon PC a été assemblé par un assembleur.
Non, toi, je pense qu'il a été customisé par la Poste. C'est encore différent.
Je sais pas, mais bon, bref.
Bref. Bon, en tout cas, ça reste néanmoins très important parce que maintenant, désormais, quasiment tous les jeux s'installent vraiment directement et prennent des
tous.
10
s'installent
gigas.
S'installent tous,
hein,
s'installent tous
sur PC.
Et maintenant, d'ailleurs,
c'est des gigas et des gigas.
Maintenant,
hein,
d'ailleurs, il y a un truc qui arrive de plus en plus, c'est que les jeux donc, font entre 3 et 15 gigas. Donc,
c'est ça, ouais, c'est
va, quoi
ça.
Mais maintenant, on n'a pratiquement plus besoin des DVD sur les dernières sorties parce qu'il y en a plein qui sont par exemple protégés par Steam. Donc après, voilà. On aime ou on n'aime pas. Hein. Mais en fait, le jeu, par exemple, je prends l'exemple de ce fantastique RPG que tu adores, Julien, qui vient de sortir sur PC, qui s'appelle, aide-moi...
Last Remnant.
Last Remnant.
Ah, oh, putain.
T'as eu peur. Hein.
Ah, parce qu'il cherchait vraiment un truc qu'il adorait. Pas
bah, c'est ça, ouais, exactement.
J'étais un peu ironique. Alors que pas du tout, en fait. Mais non,
Last Remnant, et Last Remnant, en fait, était activé par Steam. Donc, il est protégé par Steam. Tu l'installes, t'as 2 DVD. Il prend ses 10 gigas ou je sais plus combien. Et après, tu les enlèves et t'en as plus jamais besoin, en fait. Parce qu'il va s'updater par Steam. C'est
mais
Steam
t'as pas besoin de ce jeu non plus.
Voilà. Et d'ailleurs, je vais pas y jouer non plus. Hein, ouais.
T'as essayé un peu.
Tu l'as lancé quand même.
Ouais, je l'ai lancé.
T'as vu, hein.
Et ben il marche un peu mieux sur PC.
Ah,
mais parce que j'ai un PC de course.
C'est parce que t'as un 4 cœur.
Voilà. Hein. Et voilà, j'ai un 4 cœur de la mort. Mais voilà, ça marchait tellement bien par Steam que d'ailleurs, il y a eu plein de news comme quoi le jeu s'activait pas par Steam parce qu'il est sorti trop tôt. Et en fait, c'est pas vrai. Il y avait une boîte de DA2 qui disait non, tu peux pas y jouer. Et tu disais ok. Et après, c'est le jeu français. J'adore. Et le site américain, en fait, non, on peut pas y jouer en Europe. Mmh, bah si, en fait. Il y a eu plein de news sur Kotaku le week-end dernier.
D'accord.
Après les disques durs, après les cartes mères, après les cartes graphiques, place, et on va à peu près finir cette partie matérielle à l'écran,
hein,
parce que mine de rien, sans écran,
temps,
bah, que serions-nous, hein, j'ai envie de dire.
Bah, exactement, voilà. C'est par là qu'on voit tout
ça. Ça a changé un petit peu les choses, là, là maintenant, bon, c'est que de l'écran plat, c'est du LCD.
C'est
hein.
du LCD
parce que
partout.
C'est la révolution, c'est ça déjà. Hein.
C'est ça. Sauf qu'il y avait des histoires de microsecondes, enfin, l'affichage, latence, etc.
Ouais,
ça s'est réglé tout ça.
Maintenant, c'est du pinaillage, et quasiment tous les écrans sont.
Ah, CAF a pas l'air si d'accord.
Non, c'est pas ça, c'est que maintenant, on parle d'écran plat.
Oui.
Et que quand on veut vraiment rentrer dans les détails, il y a 3 technos différentes d'écran plat, et que quand on est un coupeur de cheveux en 4, les gros ayatollahs, je prends le genre de jeu qui est
Mister
le plus
P,
relou,
par exemple.
Voilà, Mr. P au hasard. Salut, salut, va Mr. P.
Magnifique, Mr. P.
Quand lui va parler de FPS, donc un genre de Quake, etc., et ben, il y a une petite rémanence encore sur certains modèles, sur certaines technologies.
Exactement.
Et les mecs. Putain, c'est chez
oh, merde, pas quand la, tu poses la bonne pour ça. La bonne c'est les TN pour voilà. les FPS et les moins bonnes c'est l'IPS mais qui est plus meilleur pour
et
d'autres
qui est meilleur
choses,
pour l'image en général
qui est meilleur pour l'image en général ah. Bon et ça
t'es
change.
T'es encore en train de faire des trade-offs, tu vois. Il y a pas encore la technologie d'accord. magique.
En fait, c'est
d'accord.
juste une différence tout. Dans la manière dont les cristaux se tordent, en fait, puisque la technologie LCD, c'est les cristaux liquides qui vont se tordre pour donner plus, pour laisser passer plus ou moins de lumière et donc donner des couleurs différentes. Mm-hmm. C'est tout simplement ça. Et donc la manière dont il va se tordre dans l'espace, le cristal, ça va faire la différence c'est de la technologie.
Exactement. La façon dont ils ont fait les layers, etc. Et bon, alors on va être très simple maintenant. Pour le joueur normal.
Il y a des marques émergent.
Tout va bien. Et après, en revanche, au-delà de la dalle, tu as l'électronique qui est derrière. Et là, c'est là où la marque rentre en ligne de compte.
Ouais,
parce que
tu
as des marques qui vont faire de l'électronique cheap. Et là où ça devient super piégeant, c'est que tu as des marques qui vont faire de l'électronique cheap uniquement sur leur bas de gamme, mais qui vont jouer sur l'image de leur haut de gamme. En se disant, cet écran-là, il est super bien. Donc le petit, là, à 200 euros, il est super bien. Sauf que non, c'est de la merde. Mais évidemment, ça, pour le savoir, il faut se taper les comparatifs. C'est pour ça qu'un.
Ou un podcast
là,
de Gameblog sur le PC.
Ça, voilà. Mais sauf
du
que.
Coup,
exactement. On va donner des marques en général, oui. Parce que après, ça varie vraiment.
C'est vraiment une question d'un modèle à l'autre. ViewSonic a quelques très bons modèles et Samsung aussi.
Ouais, Samsung et ViewSonic, on va dire, dans le truc.
C'est quand même les
deux
valeurs sûres. Voilà, c'est les deux valeurs sûres, ouais. Généralement.
À condition de prendre du moyen ou du haut de gamme, donc.
En gros, on peut trouver un écran 22 pouces pour entre 200 et 250 euros de qualité
c'est
maintenant.
Ouais.
C'est tout.
Ouais,
c'est...
Ouais.
Ah non, mais les prix ont chuté de
non,
manière.
Non, mais il y a que toi pour utiliser un portable comme ça avec
oui.
un écran comme ça. Hein.
Un écran 24 pouces. C'est 320 euros. Oui, oui. Les prix ont. Alors, l'écran 24 pouces, après, c'est pas vraiment quelque chose pour les joueurs. Hein. Parce ouais. que généralement, ceux qui sont à ce prix ne sont pas forcément aussi bons, mais un écran 22 d'accord. pouces de joueurs, 250 euros, on voilà. a vraiment quelque chose de très bien.
Donc ViewSonic, Samsung, ça fait déjà deux fois qu'on parle de Samsung. Samsung est...
ils sont très bons en mémoire aussi.
Fait tout.
Et puis attention, faut pas oublier que la Corée, leur machine de base, c'est le PC.
Et c'est beaucoup de Samsung.
Et Samsung, ils sont partout, quoi. Et ils font de très très bons développements. Et les disques durs, s'ils sont au taquet, ça faisait partie des trucs qu'ils avaient.
C'est
pas
récent d'ailleurs, parce que
c'est pas un rachat.
Ah oui, c'est probablement un rachat.
Parce que je crois que c'est un rachat techno quelque part, mais je sais plus ce que
c'est. Je ne sais plus qui c'est.
Mais en tout cas,
Fujitsu peut-être.
Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Pour finir sur les écrans, c'est que le 24 pouces, la marge de prix est énorme parce que justement pour avoir un vrai bon 24 pouces de joueur, ça devient là on double le prix tout de suite et c'est vrai que ça augmente très très vite. Les 24 pouces bas de gamme sont pas chers mais pas forcément pour les joueurs et là faut plutôt regarder du côté de chez Dell par exemple.
Tout à fait.
D'accord. Je vais juste poser une question vraiment de néophyte. Je m'excuse si vous êtes par la réponse. 24 pouces, on est à combien de centimètres de diagonale là? On est sur
60, 65.
Oui, mais c'est gigantesque quand même.
Oui,
c'est du 16-9e aussi. Hein, donc 16-10e.
C'est 16-10e, oui. D'accord. C'est la différence.
D'ailleurs, il y a des pétitions en ligne pour que les mecs sur PC se sortent les doigts pour faire des écrans 16-9e.
Ce qui est en train d'arriver, ça arrive sur les portables. La plupart des nouveaux portables sont en 16-9e et maintenant les écrans PC vont arriver en 16-9e aussi.
C'est pour être raccord avec les jeux consoles qui bien sont sûr. En 16-9e et pour être raccord avec les films qui sont en 16-9e et c'est complètement débile d'avoir fait le 16-10e à la base donc ils essayent d'harmoniser tout le truc quoi.
C'est la cause de certaines polémiques notamment genre des trucs sur BioShock avec les faux white screen et les faux machins.
Il y avait des raisons aussi de découpage de dalles en fait puisque dans la manière dont la fabrication des écrans LCD sont faits, on découpe une grosse dalle en morceaux et donc au moment où ils ont décidé de faire le 16-10e pour faire des économies, c'est ce qui était le plus rentable de couper de cette manière-là en 16-10e. Okay. C'était des questions, comme souvent dans l'informatique.
Mais c'est bien, mais pour ceux qui font juste du traitement texte et compagnie, quand même, 16-9e, du coup, ça tasse encore plus. Enfin, c'est pas que ça tasse,
tu perds un peu de ligne.
Du moment où l'écran est plus grand, c'est pas forcément gênant.
C'est une question de taille. Maintenant, t'as vraiment le. T'as vraiment
parce que maintenant, en gros,
interfaces.
Le minimum, c'est 22 pouces.
Le minimum.
Enfin, pour une config de joueur, maintenant, c'est si tu vas chez dans une grande surface, c'est 22 pouces.
Putain, je me rappelle la seule fois et unique fois de ma vie où j'ai acheté un PC de gamer. C'était, je sais pas, en 2001 ou un truc. J'ai acheté mon 17 pouces. Comment j'étais fier, quoi.
Ah ben, c'était top en 2001.
C'était
il y a 8 ans, mec. Mais même pour les portables, pour te donner une idée, c'est qu'il y a des gens qui préfèrent jouer sur des portables. Maintenant, un truc qui n'existe pas, c'est que sur le portable, ça va être une galère parce que le disque dur, il tourne pas assez vite. Les disques durs PC,
pourquoi ces gens veulent jouer sur du portable?
Parce que ça prend pas de place, tu le fermes et t'as pas de poste dédié au PC en fait dans l'appartement et dans la maison. Il y a plein de gens qui veulent justement pouvoir ranger la bécane.
Ou qu'on force pour des raisons maritales.
Voilà, exactement. Et il y a vraiment, le marché du portable explose à ce niveau-là. Et les portables, on va dire multimédia, c'est des écrans 17 pouces tout le temps en ce moment, mais pour des rapports qualité-prix hallucinant parce que maintenant tu trouves des portables à. Alors, c'est pas des portables de joueurs parce que la partie graphique elle est pourrie, tout ce que tu veux, mais tu vas trouver des portables 17 pouces à 800€, t'as une bonne bécane quoi. C'est là où justement Apple généralement se fait engueuler, mais il faut voir que si on prend une machine équivalente, on va à 2000€ sur PC aussi. Hein.
Ouais. On dira juste que les ventes de portables, c'est plus de 50% du marché du PC.
Ça a totalement explosé.
Voilà. Ça a totalement explosé.
C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, parce que je pense que dans les années à venir, on jouera sur portable, d'une manière ou d'une autre.
Il y a très peu de bons modèles de portables pour jouer. On en cite peut-être juste un. MSI en a un bien, qui s'appelle le 735, si je ne dis pas de bêtises, avec une Radeon HD 4850 à l'intérieur.
Et t'as Toshiba qui
a. Mal. Toshiba a de bons modèles en Cosmio, mais généralement ils n'importent pas les bons, puisque c'est pareil. Parce que selon les pays, ce ne sont pas toujours les mêmes modèles qui sont vendus.
C'est pas lourd, ça, quand
même. France, on a rarement les bons modèles. Donc, monsieur Toshiba, si vous nous écoutez.
Ouais, parce qu'en fait, ils vont les vendre chez les gars du style
Toshiba,
Carrefour.
Toujours les inconnus.
Et c'est pas
ils s'en foutent, ils connaissent pas.
Ils veulent un rapport qualité-prix.
Ils achètent un
ils veulent
prix.
Pas le meilleur. Quoi.
Ils achètent un prix, ils achètent pas un rapport performance-qualité-prix. Et c'est tout le drame.
C'est marrant
qu'ils
s'adressent pas à des
niches
aussi de consommateurs. Qui
ça vient, je pense que s'il y a un directeur des achats de la Fnac qui se dit un jour, tiens, je voudrais bien toucher les gamers à cette période de l'année, nanana, il y a un truc à faire. Les modèles, ils existent. Maintenant, faut faire.
Vous nous entendez, monsieur le directeur de la Fnac?
Putain, qu'est-ce qu'on a passé comme message ce soir? Bon, allez, next.
En tout cas, on parlait un petit peu du coup du futur. Hein. Est-ce que dans 5 ans, 10 ans, peut-être on jouera tous sur PC portable finalement? Parlons, évoquons un peu moins loin, hein, plutôt fin de cette année, l'arrivée d'un nouveau système d'exploitation. Parce que mine de rien, maintenant qu'on a la bécane qui est à peu près constituée, il faut faire tourner tout le reste. Alors, Windows
et avec
7
Vista,
arrive.
C'est pas gagné.
On sait que Vista, oui, ça a été un petit peu la douche froide, hein, soyons clairs.
La catastrophe.
Est-ce que Windows 7, et pourtant, et ça a l'air plutôt bien parti, va redorer un peu le le blason du jeu sur PC.
Bah, c'est bien parti. Ouais. Il faut savoir que Windows 7 est sorti en bêta publique, donc disponible pour tout le monde au mois de février. Mm-hmm. Ça a été téléchargé je ne sais plus combien de milliers de fois, des millions de fois si on compte les versions piratées hors des trucs fournis par Microsoft. Parce que c'était très facile d'avoir un... Tu prenais n'importe quel numéro de série, si genre, moi je te donne le numéro de série que j'ai eu par Microsoft, il marche en fait. Ils s'en foutaient, ils voulaient juste que plein de gens puissent l'installer.
Bien sûr.
C'est une excellente surprise. Les dernières versions bêta, parce qu'ils ont continué à mettre à jour.
Est-ce que c'est pas une stratégie, moi je me dis au bout d'un moment, entre Windows Me, Windows XP, tu vois, Windows Vista,
non,
Windows
7. Je crois qu'ils ont un vrai problème, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de se rater pour y arriver après.
Ah ouais.
Je pense que c'est un problème interne. C'est un problème de politique interne. Il y a des mecs qui ont le pouvoir à un moment donné qui font de la merde. Et il faut vraiment qu'ils aient le nez dedans pour qu'ils laissent faire les mecs qui savent, en fait. Je pense que Vista, ça a été une telle débandade. C'est même pas en termes de vente, puisque comme tout le monde sait que c'est avec cette politique commerciale extraordinaire qui fait que quand tu achètes un PC, tu es obligé d'acheter Vista avec.
C'est les ventes sont là. Qui a été le mieux vendu de l'histoire de Microsoft. Et effectivement, c'est ce qu'ils adorent te rappeler quand tu dis du mal de Vista.
Exactement. En termes de vente, il n'y a pas de souci.
En gros, ils te rappellent qu'ils t'ont bien baisé.
Exactement.
Mais c'est trop ça.
Ce qui sous-entend quand même que donc il ne s'est jamais vendu autant de PC que ces dernières années.
Mais voilà. Bien sûr. De toute façon, les ventes de PC continuent à augmenter tous les ans. Ça, c'est...
Et ils jouent là-dessus, eux. Maintenant, en termes de retour d'utilisateurs, de retour de vente de boîtes à l'unité, c'est une catastrophe.
Pourtant, à la base, ça devait être waouh.
Ah, exact.
Exactement.
Moi, je me rappelle que de ça.
Les frissons de la honte.
Tu as bien retenu. Ouais, ouais.
Voilà, il y a très peu fort d'artifice à l'arche de la défense aussi pour le lancement.
Oui, c'est vrai. C'est
Flavie Flamand qui faisait la présentation sur TF1 de Windows Vista, on s'en souvient.
Avec
quand
du
même.
Savon petit marseillais, je sais pas quoi. Elle pouvait regarder cette pub, c'était incroyable.
C'est au secours. Et du coup, Vista s'est fait. Il s'est passé un truc qu'on n'avait jamais vu, en fait, quasiment, depuis Windows Millennium, le fameux Windows Millennium, c'est que les gens se sont mis à réinstaller Windows XP et à garder Windows XP et à virer Vista sur les nouvelles machines pour mettre Windows XP. Et ça, sur PC, c'était quasiment du jamais vu, en tout cas, dans le monde Windows.
Et ce qui a été le plus grave, c'est que ce qui s'est passé, c'est que les partenaires de Microsoft, les OEM, c'est-à-dire Dell et compagnie, ont aussi sous la pression. Redemander à Microsoft de faire XP. Et donc XP a eu sa durée de vie prolongée jusqu'à la sortie de Windows 7. C'est-à-dire que jusqu'à la sortie de Windows 7, on pourra acheter du Windows XP.
Ah bah alors justement, date de sortie, est-ce que les choses sont un peu précises ?
On va dire septembre.
Septembre 2009.
C'est septembre 2009. Ils l'ont pas annoncé, mais tout le monde.
Au rythme où ça va, c'est pas possible. Parce qu'on parlait de 2010. Or, là, c'est en accélération constante. L'OS est grave dans les rails, il marche. Moi, j'utilise une vieille bêta, j'ai quasiment aucun problème avec, et avec des fonctionnalités en moins par rapport à des bêtas qui sont déjà sorties.
Exactement, et qui est largement à des kilomètres de ce que peut être Vista en ce moment. Ouais.
Donc, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tu achètes un PC moderne et tu prends les dernières releases bêta de Windows 7, c'est stable, jouable.
C'est stable, jouable. Il y a en plus ATI fournit maintenant des pilotes pour Windows 7. C'est vraiment très très bien.
Ça marche nickel.
Alors justement pour les joueurs, quels sont les avantages ? On a parlé de Windows 7 qui bootait plus vite, qui était plus rapide. Est-ce que c'est juste
alors,
un peu
il y a une question de support, des nouveautés matérielles aussi, puisque le drame, un des drames de l'informatique et des cartes graphiques sur ces dernières années, c'est que pour vendre Vista, Microsoft s'est dit je vais limiter DirectX 10, donc la dernière version de DirectX, à Windows Vista. Or, comme les joueurs ne sont pas passés à Vista, il y a eu très peu de jeux qui ont utilisé DirectX 10. Ouais. Donc là, ça a été un vrai problème. Avec Windows 7, on va avoir de nouveau une nouvelle version de DirectX, la version 11, qui sera aussi disponible pour Vista, toujours pas pour XP, mais bon, là, on ne peut plus rien faire.
Il faudra changer un moment.
Il y a un moment, il faut se faire une raison. Et effectivement, Windows 7 va apporter donc quelques petites nouveautés, DirectX 11, une meilleure gestion des processeurs multicœurs, donc ce dont on parlait avant, c'est-à-dire que grosso modo, on ne va plus forcément avoir besoin d'acheter un processeur dont la fréquence est élevée, mais avoir plus de cœurs, ça pourra marcher aussi.
D'accord.
Donc ça va être un petit peu la tendance et il va y avoir d'autres petites nouveautés.
D'une manière très pragmatique, la façon dont sont codés maintenant les drivers graphiques, etc., permettent de jouer dans un mode qu'on n'utilisait pas du tout sous XP, qui est donc le mode fenêtre maximisée. Au lieu de passer en full screen sur PC, donc t'as ton jeu qui prend tout l'écran, voilà, plein écran, tu peux être en plein écran, donc visuellement c'est la même chose, mais pour le système d'exploitation, tu restes dans une fenêtre en fait.
Tu peux alt-taber proprement.
Voilà, alors alt-taber, je traduis pour les gens. C'est faire alt et tab en même temps, c'est super dur de comprendre.
C'est une fenêtre qui permet de passer d'un logiciel, enfin d'une application.
Typiquement, t'es en train t'es en train de faire un truc dans un jeu, t'as besoin de mater une page web, tu peux faire venir cette page web sur en fait ton écran de jeu et
sans sortir du jeu.
Sans sortir
en fait.
Du jeu. Et ça fonctionne. Et c'est vrai qu'avec plein de moteurs 3D même modernes, quand tu fais un alt tab, bah tu te retrouves avec un truc mais qui va en fait disparaître et le jeu des fois il veut pas revenir.
Ouais, ah, voilà. Ça, des fois ça plante et puis t'as toujours cette espèce de redimensionnement de...
Voilà. Exactement, et c'était une grosse erreur de Microsoft au niveau de la programmation de DirectX, enfin bon ça c'est...
C'est un vrai problème et du coup c'est un truc qui est hyper agréable, qui est apparu sur Vista du coup, et voilà, ça fait partie des petits agréments pour le joueur PC dont on parle jamais.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il n'y a pas des histoires d'exploration de jeux ou d'installateurs de jeux, je sais pas.
Si, t'as maintenant c'est les jeux sont directement dans le système d'exploitation, il y a un menu directement dans le truc.
Où tous les jeux ne vont pas forcément.
Ouais, toutes les dernières releases sont censées y aller,
oui,
quand même. Hein.
Mais il y en a quand même toujours un qui n'y va pas. On ne sait pas trop où chercher les jeux.
En fait, tu crées ton dossier jeu à ta place,
non,
c'est ça ?
En fait, ce qui se passe, c'est que tu as toujours eu dans le menu, dans l'explorateur de Windows, tu as toujours eu un menu jeu. Et dedans, tu n'y allais jamais, voire tu le virais, parce qu'en gros, tu avais
le démineur,
le
mineur,
et tout ça. Voilà. Maintenant, en fait, les jeux que tu installes vont se mettre une icône directement dans ce menu-là.
Ah,
et à côté de ça.
C'est super. Franchement, c'est génial.
Non, mais
donc ça la puissance intellectuelle chez Microsoft.
Exactement. Et Microsoft, mais il fait chier tous les développeurs de jeux avec ça en disant il faut harmoniser l'expérience de jeu, machin. Parce que qu'est-ce qu'ils ont été obligés de faire, les développeurs de jeux PC? C'est mettre des icônes sur le bureau pour que tu trouves le jeu que tu viens d'installer, tu vois.
Voilà.
Ouais, ça me fait penser à un autre truc dont je voulais parler vite fait tout à l'heure, en fait, qui est aussi dans les trucs que Microsoft pousse et qui sont pas mal aussi. C'est comme, mine de rien, la manette Xbox, tu peux l'utiliser sur PC très facilement pour pas mal de jeux aussi. Donc, quand t'as des jeux multiplateformes dont on parlait tout à l'heure, qui sortent sur PC, etc., voilà, tu peux acheter un adaptateur et si t'as une box chez toi et les manettes, tu peux les utiliser facilement.
Je voyais Guillaume lever le regard vers toi sur cette question.
Non, pas du tout.
Généralement, j'en fais toujours une dans un podcast. Hein, pour donner la parole à des gens qui ne veulent pas prendre la parole. Et ça me fait plaisir te l'avoir offert comme ça.
Non, mais c'est vrai que ça existe, mais Microsoft pousse certains trucs, le Game for Windows, on en parlera tout à l'heure. Il y a plein de choses qui sont pas forcément, qui n'ont pas été pensées correctement au début, mais qui partent d'une très bonne intention, tu vois. Ils sont un peu comme ça, des fois ils sont bien braves.
Voilà, ça c'est chez Microsoft, ils sont toujours bien braves, ils ont toujours de très bonnes idées, mais sur la réalisation, ça leur prend un peu de temps. Parce que si on veut faire très court l'histoire de Windows 7, en gros, c'est un Vista qui a été fignolé. Voilà.
Qui était fini.
La base, c'est la même.
La base, c'est la même et ça le rend utilisable. Grosso modo, on n'est pas difficile. On veut juste quelque chose d'utilisable et malheureusement, c'est la seule différence. Et qui ne plante pas.
Et dans des proportions hallucinantes, parce que pour donner un exemple très simple, c'est que quand dans les configurations requises sur certains jeux, les mecs disent voilà, si vous avez Windows XP, il vous faut 512 mégas de RAM. Si vous avez Windows Vista, il faut 2 gigas de RAM. Et là, sur Windows 7, tu reviens à 1 giga voire 512 mégas. C'est-à-dire qu'en termes d'optimisation, ils ont vraiment, vraiment bossé. Et pour tout le monde, c'est une très bonne nouvelle.
À cause du marché des netbooks, ces petits portables à 300-400 euros.
Mais au chiffre de croissance à 3 chiffres.
Voilà. Exactement, qui fait que Microsoft a dû un petit peu se réveiller, puisqu'il n'allait pas vendre Windows XP indéfiniment, puisqu'il n'y a jamais eu Vista pour netbook. En fait.
Valait mieux parce pas, que, parce que t'aurais eu 2 minutes d'autonomie. Ah,
tu ne pouvais pas, ça ne tournait pas.
D'accord.
Voilà.
Bah si, d'ailleurs, t'as Vista sur le Sony P.
Sur le VIOP, voilà, exactement.
Et Sony regrette. Hein.
Exactement. Ça, je l'ai présenté.
Voilà.
Il est très beau, esthétiquement. Il est magnifique.
Le hardware, c'est mignon.
Mais oui, sinon, c'est une lenteur, mais de l'espace atomique.
Parce que Vista, voilà.
Next.
On parlait donc de Windows 7, juste un tout petit laïus sur Apple. Est-ce que ça a toujours été un peu la guéguerre, genre est-ce qu'on peut jouer sur un Mac? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui enfin?
Oui, à quoi? Je ne sais pas.
Ah bah, World of Warcraft, c'est le seul jeu PC qui tourne.
Il y a plein de jeux sur Mac, mais généralement en émulation, donc c'est pas terrible. C'est-à-dire que les mecs font des portages en utilisant des outils d'émulation intégrés au jeu, si tu veux. Electronic Arts fait ça, par exemple, sort des versions macOS, mais qui sont pas des versions vraiment natives, donc c'est pas terrible.
Le matériel d'Apple, le matériel choisi par Apple au niveau des cartes graphiques est quand même
à chier.
Voilà.
Non, donc, mais cherche pas des mots polis, ça sert à rien.
Non, mais j'essaie d'être.
C'est étonnant quand même. Pourquoi?
Parce
qu'ils n'arrivent pas à pénétrer
ce
marché.
C'est pas sexy.
Non, c'est pas leur marché.
Oui, c'est pas leur marché.
En fait, faut être très simple, faut être très clair. Apple n'en a rien à foutre. Eux, leur marché, c'est le portable pour bosser.
Ils en ont pas rien à foutre sur l'iPhone, donc.
Ouais, oui, mais c'est pas pareil.
Ouais, mais ça, là, on est vraiment justement sur une optique complètement différente. Apple, par exemple, de base, ne vend pas de tour de moyenne gamme. Donc la tour du joueur PC ultime, ça n'existe pas. Ouais. Sur Apple, c'est soit un portable, donc pour jouer qui n'est pas terrible.
Ou enregistrer des podcasts.
Pour enregistrer des podcasts, salut toi. Et sinon, tu vas avoir l'iMac qui est potentiellement potable pour jouer, mais il ne faut pas trop lui en demander. Et après, tu as le Mac Pro qui est donc hors de prix. mais qui est une machine qui porte bien son nom, parce que c'est vraiment des trucs pro pour faire du son à très haut niveau, de la, du montage vidéo, etc. Mais derrière, qui est vendu de base avec des cartes graphiques, mais tu rigoles, quoi, qui est des surmerdes. Tu ouais. sais même pas pourquoi ils mettent, le proposent même, tu vois. Alors après, en option, tu peux avoir un peu mieux. Mais encore une fois, ça reste un rapport.
Ça reste des choix très bizarres et qui ne sont pas forcément faits pour le marché des joueurs.
Voilà. Donc,
et donc à l'avenir, est-ce qu'on peut imaginer ça n'a pas l'air d'être la tendance, invisiblement.
Non, c'est pas parti. Ils veulent toujours pas faire de cette fameuse moyenne tour qui serait une réponse au marché des joueurs, si tu veux, avec un design un peu sympa, etc. Moi, je kifferais. Pour moi, macOS, c'est le meilleur système d'exploitation de la Terre. Je ne bosse qu'avec ça.
C'est clair.
Je l'ai vendu, je crois, à tout le monde ici, sauf toi, Julien.
Oui.
Parce que quand on a commencé les podcasts, hein, je le dis pour Guillaume, vrai, j'étais le seul à avoir un Mac, et maintenant donc nous avons Angèle, Julo, Raon qui ne travaille plus que sur Mac, donc il s'est passé un truc.
Fais-le moi gratos, c'est franchement je le prends.
Bah non, parce que moi ça me coûte aussi, ça me fait du mal, mais pour bosser il n'y a pas photo. Maintenant pour jouer, j'ai un PC, j'aurai Windows 7 et ça c'est très nouveau, je prends plaisir à utiliser Windows 7 alors que j'avais plus plaisir à utiliser mon PC depuis.
Pourtant en termes d'interface c'est extrêmement similaire à Vista.
Ils ont rajouté.
Il y a des petits changements au niveau de la barre des tâches, voilà. La gestion des fenêtres. Il y a vraiment c'est des tout petits détails qui font que ça transforme du tout au tout.
C'est des petits riens qui font des grands tout.
Exactement.
Je ferai un dossier pour Gameblog comme je l'avais fait pour Vista et là pour une fois je crois que je dirais du bien. Et très honnêtement il y a des trucs très simples qui font que tu retrouves tes fenêtres hyper facilement. Mais des conneries d'ergonomie qui où il y a deux mecs qui ont réfléchi et c'est bien. Voilà.
Ouais, mais il y a toujours pas précise, il y a toujours pas.
Ah non, tu voudrais non des révolutions, non, mais t'es
exemple,
fou toi.
Il y a une révolution au niveau du Alt Tab dont tu parlais ouais. Pour qui permet de passer d'une application à l'autre. Maintenant donc dans les dernières versions quand tu fais Alt Tab, tu as toutes les fenêtres qui se mettent en transparence et tu n'as que la fenêtre sélectionnée entre guillemets de l'application sélectionnée qui apparaît visuellement. Donc tu d'accord. peux passer d'une application comme ça beaucoup plus facilement.
Et ça marche quand tu le fais dans la barre des tâches aussi. Quand tu restes sur ta souris sur une application dans exactement. La barre des tâches, ça va faire passer uniquement ça. Tout va passer en transparence, sauf le truc que t'as pointé, que t'as pas encore cliqué. Tu vois.
D'accord. Mais il y a toujours pas spécies et exposé.
Non. Et puis crois-moi, je souffre. Hein. Je peux plus bosser sans ces trucs-là. voilà, ils doivent pas nous comprendre tout ça, mais
non,
je vous jure
c'est
que.
C'est pas de quoi vous parlez.
Si on faisait.
Oui, non, mais j'ai bien compris.
Julien, s'il se mettait à utiliser ça, je vous promets, il vous en vendrait des palettes.
C'est possible. Parce que moi, j'ai vendu beaucoup d'iPhone.
Bah voilà. Mais c'est normal, ça va avec.
Mais il faut que tu franchisses le pas.
On en reparlera, on en reparlera.
C'est pas le sujet.
Vous m'avez bien vendu Windows 7. Allez, l'avenir du jeu PC, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Internet, très important, hein. C'est une partie sur laquelle, très clairement, hein, le PC continue à dominer. Ça, nous sommes complètement d'accord. Et puis, il y a beaucoup de choses hein, qui arrivent avec la distribution en ligne, voilà. Les MMO qui sont en train de connaître
un
vrai carton
parties.
Depuis quelques années, mais ça continue.
Tu veux qu'on commence par le matériel ou le logiciel?
Moi, j'ai envie de commencer par ce qui te fait plaisir.
Ah, c'est
un peu ton podcast.
On
finira
sur le. Ouais, allez, on va faire le logiciel. Franchement, le PC, c'est depuis le départ là où sont testées toutes les solutions qui seront utilisées un jour sur console. Donc, Steam, au départ, quand c'est sorti, c'était
surchi. C'était une catastrophe au début.
Moi, j'ai fait, des dizaines de papiers où j'en ai dit du mal, mais alors avec un bonheur.
Et à raison.
Mais voilà. Et maintenant, on ne jure plus par ça. Il y a Impulse, qui est un système concurrent chez Stardock, qui arrive. Il y a Révolution, Game for Windows, donc le truc Microsoft, qui devient utilisable dans sa dernière version. J'ai pas dit que c'était bien. Qui devient utilisable.
Bah, on notera quand même que Microsoft Windows est en train de faire pas mal de bons efforts en ce moment. Visiblement, ils sont en train de redresser un peu la barre.
Parce qu'ils
se sont
pris une énorme
claque.
Ouais,
bah oui.
Ça fait du bien parfois.
Ah bah, il y a que comme ça que ça marche, hein, surtout aux États-Unis.
Et qu'on a, il y a beaucoup d'éditeurs aussi de matériel qui ont mis la pression sur Microsoft sur le fait qu'ils abandonnaient un petit peu le marché du jeu PC par rapport à la Xbox. Et donc, des gens comme AMD, Intel, leur ont dit, Nvidia et ATI, leur ont dit, revenir.
Parce que les vendeurs de hardware vendent beaucoup sur les jeux quand même encore. Hein,
exactement.
Et puis Microsoft aussi.
Oui. Et Microsoft aussi.
Ils sont obligés d'avoir ce moteur aussi. Et en interne, il y a eu des conflits énormes en disant, hey, les mecs, ça serait bien de ne pas oublier le truc qui nous a fait bouffer pendant 20 ans. Quoi.
Ouais.
Et là, ils sont vraiment 36 mètres. Et on trouve, là où ils ont été malins, c'est qu'on retrouve une expérience qui est un petit peu homogène entre la Xbox Windows Live. Parce qu'on va se retrouver, c'est très con, mais dans les réseaux sociaux. Voilà, tu lances ton jeu Xbox qui est compatible avec ce truc-là, tu vois si t'as des potes qui sont en train de jouer sur PC, inversement, tu peux discuter, tu peux envoyer des messages. Ça reste... c'est vachement améliorable en termes d'interface, tout ce que tu veux, mais voilà, avant ça fonctionnait pas du tout, c'était une merde sans nom. Maintenant c'est juste chiant parce que par exemple un truc très con, tu peux pas sauvegarder quand t'es pas connecté sur certains jeux, ce qui est une hérésie de mais complètement débile quoi. Mais bon,
une grande idée de Microsoft.
Voilà,
alors que parce que c'est pas juste un oubli, c'est de la protection supplémentaire.
Voilà, exactement.
Exactement.
Alors qu'est-ce qui se fait de bien en tout cas et qu'est-ce qui devrait arriver dans les mois à venir, peut-être années à venir?
Bah moi j'ai envie de parler de tout ce qui est justement services sociaux, services en ligne. On parlait des trucs en ligne, de tous ces services donc d'achat de jeux dématérialisés qui commencent maintenant à arriver en masse sur les PS3, les Xbox et compagnie. Mais ça fait donc des années que ça existe sur PC, mais justement avec une expérience d'achat qui était pourrie, il faut être clair.
Oui, donc, oui, complètement.
Il y a une société comme Metaboli qui fait de la vente de jeux en ligne depuis des années.
Ils font de la location aussi.
La location,
maintenant. Location, ouais.
C'était quelque chose où les gens ne voulaient pas mettre les pieds parce que tu ne savais pas si c'était pérenne, tu ne savais pas si tu pourrais récupérer tes jeux si tu avais un crash. Il y avait plein de questions qui étaient en suspens et les gens n'étaient pas du tout rassurés, à raison sur certains trucs. Maintenant, c'est en train de on passe vraiment à la vitesse supérieure et tout le marché du dématérialisé explose. Sur les ventes de jeux, sur la gestion même du produit, parce que les MMO, ça devient vraiment le nerf de la guerre sur PC. Pas que, il y a vraiment d'autres trucs, mais on avance vraiment sur ce marché.
Avec aussi des avancées qu'on n'a pas par exemple sur console, comme les préchargements, où tu vas avoir un jeu qui est programmé pour, je sais pas, le 25 mars par exemple, et tu vas en fait le télécharger avant la sortie, il sera prêt, tu pourras pas y jouer avant la date de sortie, mais le 25 à minuit, ça y est, tu peux y jouer si tu veux. Donc tu n'auras pas besoin d'attendre une heure de téléchargement avant de pouvoir jouer à ton jeu. Quoi.
Et ça, c'est vachement
donc,
bien.
Donc ça, c'est des choses par exemple qui se feraient du bien que ça arrive sur console aussi, ça pour des tas d'autres trucs.
Je suis pas inquiet, ça va arriver.
Ça va arriver.
Ça arrivera.
Mais ça fait partie de justement des gros changements. Le PC a apporté un truc tout con qu'on connaissait pas et au début on a dit putain ça va, les jeux sortiront plus jamais finis, c'est tout ce qui est patch automatique, le patch, mais au-delà du patch, parce que le patch était quand même tanné pendant des années sur PC, c'est que maintenant ton jeu sur Steam il est patché, t'es même pas au courant. Quel bonheur, c'est-à-dire que là tu lances ton Team Fortress 2, il y a eu un patch, bon peut-être que tu l'as pas téléchargé pendant la nuit automatiquement, mais ça se trouve il s'est téléchargé automatiquement, tu sais même pas que tu joues à une nouvelle version.
Exactement.
Et c'est transparent pour l'utilisateur, t'as pas de questions à te poser, et t'as l'étape d'après du patch qui est donc le contenu de downloadable additionnel payant ou gratuit qui est sous tes yeux, tu sais que ça vient de sortir, t'as pas besoin d'aller sur des... Alors pour nous par exemple sur Gameblog c'est pas toujours génial parce que ça veut dire que les vendeurs sont complètement maîtres de leur information là-dessus. T'as pas besoin d'autres moyens, d'autres vecteurs.
On a heureusement la chance que tout le monde ne laisse pas son PC allumé sur Steam toute la journée.
Voilà, exactement, et les mecs vont savoir que bah tiens il y a une promo ce week-end, tel jeu est gratuit, j'ai envie de le télécharger. C'est des opérations qui étaient absolument pas possibles avant ces systèmes-là et qui maintenant non seulement sont possibles mais en plus bien gérées, et j'ai envie de dire on en est qu'au début, donc ça va être encore mieux dans quelques années. Fait,
ouais. Sans compter le jeu indé aussi.
Braid au hasard, hein, qui n'aurait pas du tout eu l'exposition qu'il a eu s'il n'avait pas été en vente comme ça sur PC. Ah,
ça,
Xbox,
ça paraît clairement évident.
Mais c'est des trucs qui vont continuer d'exploser. Et après, il y a un truc qu'on n'a pas du tout sur console et qui sur PC, grâce à Steam, explose. C'est tout ce qui est mod. Donc tu as Half-Life 2 et tu peux maintenant télécharger directement sur Steam ce qu'on appelle des mods, des total conversions, etc. Ou à base du moteur de jeu de Half-Life 2, tu vas te retrouver avec un jeu qui se passe pas du tout dans l'univers de Half-Life 2.
Qui n'a rien à voir. C'est donc des trucs, des développements faits par les fans, par la communauté, de manière indépendante c'est de l'indie aussi. Hein,
c'est exactement. Et Counter-Strike a commencé comme ça, c'était un mode à la base, et c'est devenu après le jeu qui a défini un peu Valve quand même.
Et là, ce qui est génial, c'est que Steam, grâce à ça, renvoie la balle à ses origines, puisque maintenant, on peut télécharger le truc, ça va se mettre à jour automatiquement, l'installation automatique, il n'y a plus des modifications à la con à faire dans les fichiers de configuration pour arriver à lancer le truc. Et ça, c'est
simple.
Ça se professionnalise presque en fait.
La distribution en tout cas se professionnalise.
Ça, c'était pour la partie online, le téléchargement, les patchs, les mods. Il y a aussi pas mal un pendant un peu plus matériel, un peu évolutif du PC en tant que tel. Est-ce qu'on peut l'aborder maintenant?
Ouais.
Je pense au ray tracing par exemple. Alors, je sais pas,
ah là là,
le ray tracing,
ça te fait rêver, ça
c'est vieux,
ça a l'air assez incroyable, et je crois que Guillaume c'est quelque chose qui t'intéresse visiblement.
Disons qu'on s'intéresse au futur du matériel, donc effectivement on disait un petit peu plus tôt que effectivement les cartes graphiques ont stagné, donc pour un tas de raisons, des raisons économiques, des raisons de manque de compétition, mais aussi en partie pour une raison de murs techniques. On s'aperçoit que les choix techniques qui ont été faits à l'époque pour faire les cartes graphiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle la rasterisation entre guillemets, on a du mal à la faire évoluer vers l'avant complètement, multiplier par deux les performances tous les ans, on n'y arrive plus. C'est quelque chose qui devient extrêmement compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut repenser à une autre manière de faire de la 3D.
Donc on rebousse un peu chemin et on prend une autre route.
Le ray tracing, c'est vieux.
Le ray tracing, c'est un concept qui est très très vieux où grosso modo, on va balancer des rayons de lumière et regarder ce qui se passe et les faire revenir. Et donc à partir de ça, on va calculer. Donc on va calculer des lumières très précises, des ombres, parce que le gros drame de la 3D actuelle, en fait, c'est que pour calculer une ombre, il faut que les programmeurs passent des temps fous pour essayer de le faire. C'est toujours du bricolage, ça ne marche jamais vraiment très très bien. On ne peut pas vraiment avoir d'ombres opaques, elles sont souvent toujours d'une même couleur, c'est jamais très très précis.
Il n'y a pas de modèle lumineux unifié.
Il n'y a pas de modèle lumineux unifié.
Ce n'est pas de la vraie lumière, c'est des astuces, c'est des choses comme ça. Le principe du ray tracing, c'est juste d'appliquer comment fonctionne la lumière. C'est j'ai un rayon de lumière qui va aller de là à là, qu'est-ce qui va passer à travers telle matière, il va réfléchir sur telle ou l'autre. Sauf que ça demande une masse de calcul hallucinante entre le moment où le concept a été.
De réflexion, de réfraction, des choses, mais alors d'une complexité. Et pourquoi on a inventé pourquoi on a utilisé la 3D telle qu'on l'a actuellement sur les cartes graphiques, c'est parce que c'était beaucoup trop compliqué de faire du ray tracing avant. C'était des heures pour calculer une image.
Quand on a commencé
il y a 10-15 ans de ça,
attends,
c'était plusieurs jours.
Il fallait voir l'image.
C'était une espèce de boule sur un truc en carreau.
Exactement.
Avec,
voilà. Et ça nous
une
faisait
théière.
Mais ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est qu'on arriverait peut-être aujourd'hui à un début de potentialité de pouvoir le faire à plus grande échelle.
Ah oui.
Alors, c'est vraiment la vraie question, c'est de se dire, est-ce qu'on peut le faire ? Alors, il y a eu quelques petites tentatives au niveau des moteurs de Quake, qui ont été faites par un Allemand, d'ailleurs. Et ce gars-là, dans son coin, a dit, je vais faire une version ray tracing de Quake, puisque Quake est libre en open source, donc il a pris le moteur, il a dit je vais essayer, je vais faire du ray tracing, et donc il s'est aperçu qu'avec une grosse machine, ou avec deux ou trois machines, il arrivait
c'est déjà plus pareil.
L'avenir du PC, c'est d'avoir plusieurs PC.
Disons qu'en prenant quatre machines en même temps, il a réussi à faire tourner Quake en version ray tracing, qui était quelque chose qui était complètement
impensable, le Quake tout complet,
Quake 3 en l'occurrence, pour ce
qui n'est pas le plus abouti techniquement.
Maintenant, ça reste une avancée énorme. Faut mettre ça en perspective avec les évolutions technologiques qu'on a connues. Le MP3, quand c'est sorti, on ne pouvait même pas l'écouter en temps réel. Et pour encoder un morceau en MP3, il fallait des heures. Maintenant, on fait un CD complet en 2 minutes. Et j'exagère à peine, mais c'est le lecteur de CD qui ralentit le processus.
Complètement.
Et derrière, on n'a aucun souci. On peut en balancer 25 sur sa bécane et elle rigole toujours. Maintenant, le ray tracing,
c'est pareil.
Pas mon PC.
Il ne peut pas faire 25 trucs en même temps de base.
Même une, c'est compliqué.
il a du mal.
Mais justement, le ray tracing, on est vraiment à la croisée des chemins. C'est encore quelque chose qui, ça se trouve, ça sera le MP3. Ça sera aussi facile que de faire du MP3 dans quelques années.
C'est-à-dire qu'on est à la croisée des chemins entre le. Il y a une guerre en fait qui se passe en ce moment entre le processeur et la carte graphique. Pour essayer de donner une image.
Ah oui, c'est intéressant, ouais.
En fait, le processeur, c'est un petit peu comme une voiture. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est très pratique pour faire 800 mètres qu'on n'a pas envie de faire à pied, pour faire 10 km ou pour venir faire 200 km, par exemple ici. Avoir une voiture, ça permet de se déplacer. Le GPU, c'est un avion. C'est très très pratique si on veut faire 10 000 km. Par contre, effectivement, c'est pas extrêmement précis.
Pour aller acheter le pain, c'est pas génial.
C'est chiant, voilà.
Pour aller acheter le pain, c'est pas génial. On est obligé de reprendre un taxi après pour aller à son hôtel. Et même pour aller à l'aéroport, c'est un petit peu compliqué. Donc, il y a un petit manque de précision, c'est un petit peu compliqué. L'avenir, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est la voiture volante. C'est-à-dire, on va pouvoir faire le mélange des deux. La question, c'est est-ce qu'on va faire ce qu'on voit par exemple en ce moment avec les voitures volantes. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur Internet, mais il y a des gens qui ont pris un avion et qui ont rajouté des ailes qui sont rétractables. Et donc, on peut rétracter les ailes et ils ont rajouté quelques roues. Et donc, ils ont inventé, entre guillemets, l'avion qui roule plus que la voiture volante. Et donc, la vraie question, c'est de savoir si le GPU, la puce graphique, quelle que soit la forme qu'elle prendra, va supplanter le processeur ou si c'est l'inverse, puisque les deux vont plus ou moins fusionner.
Et derrière c'est une bataille industrielle entre les Intel, les Nvidia, les AMD. Mais AMD a réglé son problème parce qu'eux, ils ont acheté ATI. Donc, quel que soit le gagnant,
il n'y a pas de problème. Eux, ils peuvent suivre
C'est leur problématique derrière. C'était d'être prêt de toute façon. Mais maintenant, Intel, eux, leur but, c'est de bouffer complètement le GPU, quoi.
Raon.
Prête à
réflexion sur l'avion volant.
L'avion roulant et la voiture volante. Il y a aussi en ce qui concerne plus particulièrement les jeux, certaines personnes qui ont leur mot à dire sur un peu ce type d'avenir et de voie. Genre, je pense à un Carmack par exemple. Il s'exprime sur ce genre de sujet et c'est des gens qu'on.
Alors, John Carmack, effectivement, il a toujours eu un avis assez suivi par la population, que ce soit des créateurs de matériel, que ce soit Nvidia, ATI et les créateurs de processeurs aussi, Intel, AMD. Malheureusement, il est obligé de suivre aussi les choix qui lui sont proposés techniquement. Parce qu'il y a des enjeux financiers qui sont tellement colossaux que même si Carmack dit « j'aimerais bien que ça aille par là », très souvent, malheureusement, on ne l'écoute pas. Que ça soit Microsoft avec DirectX, qui ne l'a jamais vraiment écouté, les développeurs d'OpenGL, puisque lui, c'est un fan d'OpenGL, et les développeurs de OpenGL ne l'ont jamais écouté depuis des années, ce qui le rend extrêmement malheureux.
Donc, même
pauvre Carmack quand même. Donc malgré tout, même s'il est influent et si son avis compte, c'est pas lui qui prendra les décisions.
Mais ça nous donne un indice sur ce qui peut se passer justement.
Ça peut donner un indice sur
si on l'écoute jamais,
passer,
tu vois. Si Carmack dit ça va se passer comme ça, ou j'aimerais bien que ça se passe comme ça, il y a de fortes chances que ça aille dans l'autre direction.
Carmack, en fait, ce qu'il dit, c'est que l'avenir, c'est entre guillemets ce qu'on disait avec la voiture volante, c'est-à-dire d'essayer de programmer un GPU un petit peu de la même manière qu'on programme un processeur. C'est-à-dire d'avoir un petit peu plus de... Alors là, on rentre dans les choses très techniques, mais en fait, l'idée, c'est d'avoir un peu plus de flexibilité, de pouvoir faire des choses plus compliquées et de pouvoir gérer plus finement la manière dont on va faire les calculs et le rendu de l'image. C'est-à-dire qu'en ce moment, en gros, on envoie des pixels et ils ressortent et ça nous fait une image. On dit, je veux des triangles là, là et là, et je veux telle texture, et je veux tel effet d'éclairage, et voilà. Et ça calcule tout seul. L'idée, c'est de dire, j'aimerais quelque chose de complètement programmable, où je peux dire, je veux calculer mes ombres comme ça, parce que je suis un pointilleux et que je m'appelle John Carmack, et que moi, je fais comme ça. Et l'idée, en fait, c'est de dire, on va avoir des jeux qui vont redevenir peut-être un peu plus stylisés. On va pas forcément... On parlait de ray tracing, parce que c'est effectivement une des voies les plus prometteuses, mais c'est pas forcément que ça. On va pouvoir avoir...
Puis le ray tracing, c'est pour faire plutôt des trucs réels, quoi, en fait.
Oui, c'est pour faire des choses réalistes, mais le cell shading, par exemple, qui avait été à une époque un petit peu en vogue. Mm-hmm. Et on peut inventer comme ça plein de styles graphiques. Et l'idée, c'est vraiment de donner un outil beaucoup plus flexible aux développeurs de jeux et aussi aux artistes.
Ouais, CAF qui veut rebondir.
Mais non, mais justement pour préciser que les plus en avance sur justement cette flexibilité, c'est un projet d'Intel justement.
Exactement.
Qui s'appelle l'Arabie,
dont on
sait. Et qui est extrêmement ambitieux.
Mais alors, oui, parlons de l'Arabie.
Voilà.
Alors l'Arabie, ça s'écrit comment?
Mais je ne sais pas. Parce
c'est L-A-R-A-B-E.
Alors, est-ce qu'il y a un R? Il y a deux R. On va dire qu'il y en a deux L.
Il y a deux E à la fin.
C'est un projet de qui?
Intel. C'est un projet d'Intel. Et leur idée, donc, c'est, pour reprendre, si on veut rester sur la métaphore de la voiture volante, là, ils ont fait l'avion de Batman dans The Dark Knight. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène. À un moment, il y a Batman qui est sur le toit d'un immeuble et qui va se faire envoler par un espèce d'avion qui arrive et qui le chope avec un
aigle.
Donc...
C'est en train de devenir un peu compliqué, là, quand même.
Alors, ouais.
C'est de la métaphore de...
C'est de la métaphore qui a été...
C'est de la métaphore filée.
Et donc, l'idée, c'est de se dire... On va avoir une espèce de nouvelle méthode pour faire de la 3D qui va nous emmener avec... Ça ne va pas être très fin. C'est-à-dire que ça va être un petit peu...
Méthode de bourrin.
Ça va être assez bourrin, pas forcément très raffiné au début, mais on va avoir une telle puissance de calcul et surtout une telle flexibilité dans la manière dont on peut le programmer. C'est-à-dire, c'est ce qu'on disait avant. Mmh. C'est qu'on va en gros avoir 48 cœurs de processeur. Oula. Où on va pouvoir leur dire, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Et surtout, là où Intel a quelque chose qui, à mon avis, risque de marcher, c'est qu'ils ont développé toute une série de logiciels pour faciliter le travail des développeurs, pour leur dire, je voudrais que que ceci fasse ceci, etc.
Contrairement à Sony avec la PS3, par exemple.
Non, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Quand tu me parles de 48 cœurs graphiques, ça me rappelle forcément le Cell, qui y en a moins. Hein. C'est
exactement.
16, je crois.
Ouais, un truc dans ces eaux-là.
Et donc, c'est complexe, visiblement, pour les développeurs.
Et oui, et
quand
t'as
pas les logiciels.
Et le Cell, on s'en est beaucoup moqué aussi. Ça a été au début, parce que Ken Kutaragi nous l'a vendu, nous a dit c'est la 8e merveille du monde. On s'est beaucoup moqué de lui. Quelque part, il n'avait pas forcément tort. Puisque quand on regarde ce que prépare AMD et Intel dans les 5 prochaines années, tout le monde va vers ce que le sel aurait dû être.
Ils auraient ouvert la voie et peut-être un peu trop en avance.
Tout le monde y allait.
Tout le monde y allait.
Le calcul parallèle, c'était l'avenir.
Mais, enfin, et puis de toute façon, ils n'ont pas été tout seuls. Hein. C'est pas que Sony.
IBM qui a tout fait. Ah. Au niveau du développement de processeurs, c'est souvent IBM qui fait tout. Et effectivement, sur Intel n'y croyait pas au moment où le sel est sorti. Et ils se sont dit, effectivement, bon, effectivement, c'est l'avenir, c'est la voie, on y va. Et donc, l'idée de base du sel, on le rappelle, c'est de dire que bah, les processeurs tels qu'on les connaît en ce moment dans nos PC, ça ne va pas servir à grand-chose d'en avoir des milliers. Puisque là, on multiplie les cœurs, on en a 2, 4, 8, on aura peut-être 16 dans l'année prochaine. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Parce que c'est un petit peu dur de les programmer, ça, ça devient un vrai enjeu, parce que plus personne ne sait les utiliser, donc il faut changer la formule. Ouais. S'il faut changer la formule, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Ce qui se passe dans les GPU, c'est qu'on a une espèce de multiplication d'unités de calcul, il y en a plein, et on leur fait faire tous la même chose. C'est-à-dire, on dit, bah, tout le monde va faire le même traitement, en l'occurrence, afficher une image. L'idée, c'est de mélanger un petit peu les deux, d'avoir un petit peu de cœur classique, entre guillemets, capable de faire le coup de la voiture, faire des petits déplacements, pouvoir faire des petites tâches compliquées, mais multiples, et d'un autre côté, pouvoir faire de très grosses tâches très complexes qui ne seront plus forcément des jeux.
La finalité de tout ça, pour sortir du truc technique, c'est de donner la flexibilité aux développeurs de jeux de faire exactement le rendu qu'ils veulent. Donc exactement. Avec une rapidité hallucinante. Mais à l'époque, on faisait la 3D de manière software, donc sans les cartes accélératrices 3D, etc. Les jeux avaient des looks complètement différents de l'un à l'autre.
Oui, parce que les moteurs... Chacun codait leur propre moteur
de rendu. Voilà, les mecs faisaient leur propre moteur. Je me rappelle d'un jeu de bagnole qui s'appelait Screamer, qui avait à l'époque un rendu 3D extraordinaire, qui n'avait rien à voir avec certains jeux de vaisseaux spatiaux, etc.
Dans une certaine mesure, tu as un petit peu ce genre de choses quand même, un petit peu sur console aussi.
Mais particulièrement sur PS3, par exemple.
Particulièrement sur PS3, où t'as pas cette couche déjà toute faite qu'on te file d'avance.
Non, mais
où tout passe
toujours par le même GPU quand même, donc il y a
ouais, mais au niveau outils et software, au niveau
comme il n'y a rien, ils se démerdent.
Voilà, il y a certaines choses qui manquent, donc ils les font tout seuls, donc ils les font à leur sauce.
Et sur PC et à terme sur les consoles, je pense qu'on va retrouver une créativité et dans le rendu à cause de justement cette évolution des technologies qui finalement, une fois qu'on sera sorti des écueils techniques, vont donner des outils supplémentaires aux artistes, aux créateurs. Et exactement. Pour l'instant, on est vraiment en train de faire la pelle et la pioche, et les mecs après derrière, ils iront faire leur propre truc quoi.
Une grosse tendance, ça va être ce qu'on appelle le contenu procédural aussi, donc c'est-à-dire de générer le contenu par des algorithmes informatiques. C'est-à-dire qu'au lieu de dire au lieu qu'un artiste, on lui dise bah, tu vas me dessiner une fleur, et bah, il va dire bah,
la fleur, ça sera une formule mathématique.
Ça sera une formule mathématique, exactement. Et donc là, on va gagner énormément de temps. Les artistes vont pouvoir faire des choses intéressantes et pas des trucs stupides comme dessiner une fleur.
Et ça se trouve, il y en a qui kiffent dessiner des fleurs.
Oui, peut-être.
T'es vache. Non, mais alors là, attendez, juste, parce que là vraiment, précis. Je comprends pas. Ouais,
je vais donner un exemple très précis de procédural. Ouais. Par exemple, tu prends sport, l'animation des créatures. Ils ne se sont pas emmerdés à faire toutes les animations possibles à la main. Ils ont codé une manière procédurale de faire ces animations de manière à ce qu'elles apparaissent de manière réaliste, quel que soit le type de créature que tu peux créer. Donc ça permet aussi une flexibilité supplémentaire et pas seulement de décharger les artistes d'une part du boulot.
Voilà. Plutôt que de dessiner un ciel, tu vas te dire, eh bien, je sais que la lumière, qu'est-ce qui fait que le ciel est bleu ? Bah, c'est la lumière qui passe dans les nuages, les différentes couches d'air, etc. Ouais, bah, tu vas simuler tout ça.
Touch the sky, quoi.
Exactement.
Ça, tu peux le générer d'une formule
mathématique,
quoi.
Exactement. Tout est mathématique, tu sais.
Tout est mathématique.
Excuse-moi, je t'ai cassé ton exemple, Guillaume.
Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave.
Bon, on va avancer vite fait sur le matos parce qu'il y a un deuxième truc important à part côté graphique.
Ça lui tient à cœur.
Non, mais c'est important parce que je pense que dans les impacts pour vraiment à court terme sur la performance des PC et des consoles de prochaine génération.
Vous allez comprendre.
C'est les disques durs SSD. Donc c'est les disques durs où il n'y a plus de plateau magnétique qui tourne. C'est uniquement de la mémoire statique
flash.
À l'intérieur.
De la mémoire
flash avec
comme
des technologies
les clés
un peu
USB,
différentes.
Voilà. En gros.
Ouais. C'est un peu comme c'est ça. Ça a que des avantages quand ils arriveront à faire fonctionner le truc correctement.
Pourquoi en ce moment c'est pas ça.
C'est qu'il y a deux technologies. Il y en a une qui est relativement lente et bon marché, et il y en a une qui marche bien mais qui est chère. Et les deux ont le même problème, c'est qu'ils peuvent inscrire qu'un certain nombre de fois les informations dans les puces mémoire.
Ah, ça, voilà. C'est un problème.
C'est-à-dire qu'il y a une question de durée de vie qui est un petit peu compliquée, puisque en fait, quand on écrit sur une puce mémoire, on est obligé d'effacer ce qu'il y avait à l'intérieur avant et de réécrire tout. Donc même si on veut en changer qu'un tout petit bout, on est obligé de tout effacer et de tout réécrire.
Alors qu'avec un disque dur
magnétique,
secteur par
secteur, on écrit secteur par secteur ce qu'on veut. Alors, effectivement, il y a une espèce de problématique là-dessus. Et petit à petit, ils arrivent à changer. Ils ont des idées pour essayer de, d'améliorer la fiabilité et la durée de vie. En ce moment, on dit qu'un...
Qui est de combien actuellement ?
En gros, entre 2 et 4 ans, selon la manière dont on l'utilise. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, on va avoir des, entre guillemets, des puces mémoire qui ne vont plus marcher.
Ah, et c'est ennuyeux quand même. 4 ans pour un disque dur, c'est pas
assez
long.
Court.
Bah, vu comment je les grille en ce moment, c'est pas grave.
Ouais. Voilà. Donc il
faut voir le gain aussi parce que
il faut voir oui parce que ce qu'on
c'est pour ça que j'en parle c'est parce que voilà. le pour l'instant les mecs qui prennent quand même des SSD malgré le prix malgré tout ça c'est juste parce que le rapport de vitesse sur les bons modèles il est extraordinaire
de combien
c'est surréaliste il y a une vidéo on a posté sur gameblog.fr Kaf t'as posté ça dans le blog vidéo d'un mec qui a monté une machine avec
l'ouverture d'un Windows c'est ça boutage
c'est instantané en fait tout est instantané
le mec en fait pour donner on passe pas des détails sur la vidéo mais en gros le mec il ouvre je sais plus, 50 applications et Windows.
En fait, il ouvre tout son menu démarré avec toutes les applications.
Voilà, il y en a, genre, non, il y a plus que ça, il y en a 150, je crois, dans la vidéo.
Oui,
et il fait ça en 30 secondes.
Voilà.
Et c'est juste les vidéos. Et là, c'est même plus.
Maintenant, tu penses à ton PC là tout de suite qui met genre 2 minutes pour
ouvrir Internet
Explorer. Voilà. Parce que toi, ton PC, par exemple, pour être un cas très concret de base, c'est que toi, ton PC, ton problème, c'est pas ton processeur qui est soudainement devenu plus lent, c'est ton disque dur qui est parti en vrille. Oui. Et le disque dur est le problème pour les trois quarts des gens. Quand les gens râlent parce que Empire Total War met 20 ans pour afficher une bataille,
c'est le disque dur,
c'est pas leur processeur. C'est jamais le processeur à ce niveau-là. Donc le disque dur est un truc, et c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Quand
c'est
je
le boulet d'étranglement de l'informatique depuis 15 ans.
Et puis c'est surtout qu'il est complètement sous-estimé par le grand public. C'est-à-dire que personne s'en occupe. Quand on achète un portable, il y a un truc très con, t'achètes un portable Apple, t'as dans les options de base, c'est un 5200 tours minute, 5400. Et tu peux prendre un 7200 tours minute. Voilà, c'est une option à con qui doit te coûter à taille égale, 5, même pas 25 euros, tu vois. Et sauf chez Apple, sauf 50.
Mais il faut la faire.
Mais il faut le faire parce que cette vitesse supplémentaire, ça te change complètement déjà les performances de base de ta
bécane. Tu bootes plus vite, les applications se lancent plus, tout va plus vite.
Tout va plus vite. Et ça, c'est hyper important. Et les gens n'y pensent pas. Et le SSD, c'est pour ça que c'est un truc qui est. Dans l'avenir,
ça va être la révolution de cette année. De toute façon, c'est l'événement de 2009.
Donc c'est cette année le SSD.
C'est cette année. On commence à trouver des bons modèles pour à peu près 200 euros. Ouais. Alors c'est tout petit.
De combien de gigas ?
C'est 60 gigas pour 200 euros. Ça paraît ridicule. D'un autre côté, si c'est pour installer son système et 2-3 jeux, le gain de vitesse est tellement énorme.
Voilà. Mais comment ça se fait quand on voit
on peut démarrer
durs.
Un PC en 10 secondes. C'est la quand mémoire. Je dis 10
mais
secondes,
des disques durs.
Bah un tera, c'est 90 euros en ce moment, actuellement. Voilà. Un teraoctet. Ouais. Donc 1000 gigaoctets. Donc là, on parle de 60 gigas de son.
Sauf chez Apple, encore une fois.
Oui, après, non, mais puisqu'ils ne comptent pas eux. Mais le différentiel, il est énorme parce que la technologie n'a rien à voir, les volumes n'ont rien à voir. Ouais. Mais par contre, quand les volumes vont commencer à exploser, ça va baisser, ça ne peut
puisque
que baisser.
Il y a un an, c'était 600-700 euros pour 60 gigas.
Est-ce que vous pensez surtout que ça va remplacer, aller dans les 5 ans à venir, le disque dur traditionnel magnétique ?
Ouais. Dans les machines d'utilisateurs, oui, c'est sans commune mesure.
Dans le stockage,
pour le stockage, on aura toujours probablement la cohabitation avec les disques durs parce que on pourra stocker plus de données tout simplement dessus. Parce qu'il va y avoir une question de coût, mais on commence à les voir arriver dans les portables, les SSD, ça va arriver de plus en plus dans les machines.
C'est tellement
d'ici
énorme
cet été,
la performance.
La différence, puisque en fait, la différence technique, c'est que le problème d'un disque dur, c'est qu'on a une espèce de tête de lecture.
C'est mécanique.
Qui doit se déplacer, c'est mécanique. Et le temps qu'elle se déplace pour aller d'un endroit à l'autre, ça va mettre un certain nombre de millisecondes. Et bah, tout ça disparaît, puisque avec de la mémoire flash, on peut accéder directement de manière instantanée. Et ça change la vie complètement. Bien sûr. Métamorphose n'importe quelle machine.
Sachant qu'un disque dur, à la base, les classiques, c'est déjà de la science-fiction. Quand tu vois comment ça fonctionne, les têtes de disque dur, elles aussi, il y a quelques microns des plateaux qui tournent à des vitesses folles. Il faut se positionner hyper précisément.
C'est ce qui fait aussi que c'est fragile.
Aller lire une particule.
Et que donc ça peut péter. C'est un problème aussi que tu n'auras pas forcément avec le SSD.
Tout ça, on change complètement la techno. Et là, on revient un peu à ce qu'on disait sur les cartes 3D. En changeant complètement la techno, on ouvre des perspectives nouvelles. Il y a des nouveaux écueils. Il y a des nouveaux problèmes, mais le gain, il est phénoménal.
Il faut réinventer un petit peu l'informatique. Et Microsoft a eu quelques problèmes avec ça, avec Windows Vista, qui n'était pas du tout adapté aux changements qu'apportaient les SSD au niveau de la fragmentation des données. Alors là, on rend les trucs très compliqués.
Au niveau du hardware, ils étaient juste à côté de la plaque.
Voilà, c'est-à-dire que là, ils pouvaient c'était vraiment très nul.
Et ça, c'est des trucs qu'on aura dans les
consoles
de l'avenir.
Donc l'année prochaine,
il
est envisageable d'avoir un très gros PC avec de la SSD, avec un Windows 7.
Déjà, pour la sortie de Windows 7, tu vas avoir énormément de PC qui vont être vendus avec un SSD, puisque on a
une idée du prix que ça va coûter à peu près.
On s'attend à avoir des SSD pour l'été aux alentours de 120-150 € pour 60 Go. Donc encore une fois, on continue à baisser. On est à 200 en ce moment, 220. On baisse, on continue. Et on va avoir généralement probablement deux disques. Donc on va avoir un SSD pour démarrer le système rapidement, installer son jeu. Et en même temps, un gros disque dur à côté pour faire le stockage.
Comme la voiture électrique.
Voilà, c'est un petit peu comme la voiture électrique. C'est le même principe. Et la complémentarité entre les deux.
Moi, en tout cas, je trouve ça passionnant. J'ai l'impression qu'on est à l'orée comme ça d'un nouveau boom informatique un peu.
Moi, je vois
une nouvelle manière de penser, de réfléchir un peu l'informatique.
Et moi, je vous fais prédiction Nostradamusien. Ouais. La PS4 et la 720, quel que soit
SSD
son nom,
mort,
ça sera que du SSD. Parce que c'est que des emmerdements, le disque dur, pour un fabricant grand public qui vend des tonnes et des tonnes de machines. Mm-hmm. Alors que là, le SSD, il n'y a plus rien qui bouge. Si le truc il fonctionne en sortie de chaîne, il faut vraiment le shooter pour qu'il ne marche pas quand il arrive chez le client, par exemple.
Quelque part, c'est pratiquement déjà le cas avec la Wii, en fait, par exemple, qui n'a pas de disque dur, mais qui a juste de la mémoire interne. Voilà. Bon, évidemment, elle en a très peu. Et
console très avancée sur son temps.
Voilà, mais bon.
Mais voilà, l'avenir, il est là.
L'avenir
il
est complètement là.
Ok, eh bien écoutez, je crois qu'on va conclure ce podcast avec la question fatidique qu'on avait évoquée en tout début d'émission. Depuis des lustres, on dit que la vie du PC se réduit un peu à peau de chagrin en termes de marché. On dit que les joueurs délaissent leur bonne vieille bécane et que les consoles auront définitivement la peau du PC. Alors voilà, maintenant qu'on a fait un peu tout ce bilan, qu'on a vu qu'il y avait plein de belles choses qui se préparaient et que le PC finalement semblait encore vivace,
il est au taquet,
même
s'il
était dans une période clairement de transition, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que justement l'appel de AMD, d'Intel qui disent « Eh oh, il faut se réveiller, il faut qu'on revienne sur le PC » parce que, soyons clairs, il y a quand même une vraie chute du marché un peu gamer du PC.
Le gamer, oui et non, en fait. Et c'est là où c'est intéressant. Le gamer, oui et non, parce qu'en fait, personne n'est d'accord sur les chiffres. Mm-hmm. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les ventes retail de jeux vidéo dans les ventes magasins ont clairement baissé. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que les mecs qui sont chargés de collecter ces chiffres, etc., n'ont jamais, ont mis très très longtemps à réagir sur les ventes online. Donc maintenant, on n'a plus un classement des jeux PC, par exemple. On devrait avoir les classements Direct to Drive, le classement des ventes Steam, le classement des ventes retail.
Il y a des circuits de distribution différents, voilà, qui ne sont pas pris en compte.
Et les mecs, en fait, ils n'ont absolument pas pris en compte ça au départ. Et quand on a eu les premières rumeurs du « Oh là là, le jeu PC s'écrase la gueule, c'est la catastrophe », c'est qu'en fait, ça avait déjà switché et que les mecs n'avaient pas du tout répercuté ça. Et Steam grossit, plus les ventes retail baissent.
Et Steam est vraiment gros aujourd'hui ?
C'est un truc de fou.
Ouais. Steam est énorme et ils donnent très peu de statistiques sur leurs ventes. Donc c'est très difficile de savoir.
Ils donnent des statistiques quand même et ils ont quand même aussi remarqué que dans certaines conditions, les ventes en ligne stimulaient les ventes retail aussi. Ça arrive.
Ouais, d'accord.
Stimulait.
Oh
c'est la troisième au bout d'une heure et demie et il faut que ça
c'est jamais 203.
c'est un petit peu plus compliqué à expliquer.
Voilà, mais du coup, une grosse partie des rumeurs sur les catastrophes au niveau de la vente PC, c'était pas du tout le cas. Et surtout, il y a un deuxième point hyper important qui a complètement été négligé pendant des années où ces rumeurs ont fait les choux gras et oh là là, les consoles, c'est l'avenir. C'est l'inertie des joueurs PC. C'est-à-dire que quand il y a les MMO qui sont sortis, il y a des publics captifs de millions de personnes qui se sont mis à jouer à un seul jeu.
De dizaines de millions.
Hein. Voilà, mais maintenant de dizaines de millions. Mais ça veut dire qu'un joueur de WoW, et je parle du mec lambda, va peut-être jouer à 2-3 jeux, mais en fait, le temps, les journées font 24 heures. WoW, ça prend un temps. Je prends WoW comme exemple, et ça pourrait être EverQuest 2, c'était déjà le cas avant, etc. Mais pas dans les mêmes proportions. On est passé des MMO qui captivaient 400 000 joueurs à un truc qui captive 11 millions de joueurs. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que ces 11 millions de joueurs, ils jouent à moins d'autres trucs. Donc les ventes, elles baissent, entre guillemets, pour les ventes de certains jeux. Mais ça veut dire qu'il y a quand même 11 millions de mecs qui payent 15 € par mois pour jouer tous les mois au même produit sur PC. Ou sur Mac, en l'occurrence. Ça veut dire que le marché PC, il est toujours aussi vivace.
Enfin, il y a toujours autant de joueurs, sauf qu'ils jouent à moins de jeux différents.
Mais est-ce que plus, j'ai envie de dire.
Oui, il y en a même plus,
mais est-ce que ça, c'est pas un problème aussi, quand même? Parce que si, du coup, ils concentrent leur attention, alors effectivement, donc ils continuent à jouer sur PC, à des jeux, mais peut-être moins de jeux.
Faut
sélection naturelle des meilleurs jeux.
Voilà.
Mais c'est toujours le principe.
On avait le problème sur les FPS.
Mais s'il y a un genre qui fagot cite un peu l'intérêt de...
Ça a toujours été le cas sur PC, surtout avec le jeu en ligne.
De toute façon, c'est pas compliqué. Voilà. Le jeu en ligne, tu as un FPS qui domine, un MMO qui domine, un STR qui domine. Exactement. C'est tout.
Il y a des, y a des phases.
Je suis un peu plus large, mais c'est vrai que t'as toujours le top 3. Pour rentrer dans le top 3 sur ces genres de jeux,
c'est beaucoup c'est moins multifacette que sur console, quoi.
Voilà, t'as des jeux qui vont cartonner, et en plus, le monde appelle le monde. C'est-à-dire que quand t'as un jeu qui cartonne, bah c'est tous les potes du pote du pote, ils vont tous se mettre à jouer au même truc. C'est ce qui s'est passé pour WoW. Counter Strike a phagocyté le marché du FPS pendant des siècles. Quake avait fait pareil.
Maintenant, Call of Duty, Fortress 2,
Call of Duty 4 a fait un exploit hallucinant parce que Call of Duty 4 a réussi à s'imposer sur un marché qui était extrêmement fermé. Et Valve,
probablement grâce à son succès console aussi d'ailleurs, parce que c'est ce qui fait qu'on en a parlé.
Bien sûr.
Mais en termes de succès de 2007-2008, c'est effectivement Team Fortress 2 et maintenant Left 4 Dead qui se placent dans le top 5 relativement facilement, alors que c'était ils viennent d'arriver, quoi.
Et pour faire un peu l'oiseau de mauvaise augure, quid du piratage qui visiblement continue à gangréner quand même aussi les ventes.
Justement, avec les ventes, le jeu en ligne et les plateformes de download comme Steam, il en prend plein sa gueule. C'est-à-dire que moi,
est-ce que c'est pas justement la meilleure solution?
Ah, mais c'est la meilleure solution. Parce qu'en plus, ça fait pas chier l'user final, c'est surtout ça aussi.
Je le dis depuis des années, c'est-à-dire que là, tu peux jouer sans ton CD, donc tu peux changer de jeu, ça c'est un truc que t'as même pas sur console, sur PS3. Mon Dieu, je suis obligé de me lever. Je suis obligé d'aller changer le dans la console.
Ok, je pousse le truc un peu loin, d'accord.
Non, mais je suis totalement d'accord.
Sur PC.
Regardez-les avec leur petit bidon, là, ils sont là sur le sofa.
On n'est pas bien là.
Non, mais oui.
Et tu changes sur ton jeu, tu changes d'icône et machin, et c'est instantané. Et ça, c'est un confort qui est uniquement au PC et qui continue de progresser.
Et surtout, avec le jeu en ligne et cette protection, aucun jeu en ligne n'est piraté sur les serveurs officiels. Après, t'as des mecs qui arrivent à jouer sur des serveurs non officiels, etc.
Relou et galère.
L'expérience n'est pas la même.
Voilà, et les mecs le font même plus. Genre, les mecs, ça les gaffe de le faire, donc ils le font même pas. Il y a vraiment les pinces qui vont le faire. Et moi, j'ai des potes que je ne nommerai pas, salut les gars, qui sont des pirates qui écoutent ce podcast régulièrement. Et les mecs, je les ai jamais vus. Ah oui, c'est vrai. Je les ai jamais vus acheter autant de jeux que dans 2007, 2008, 2009. Parce que il y a des jeux multi qui sont sortis et ils ont envie d'y jouer ensemble, ils ont envie d'y jouer sur le net. Et voilà, le jeu PC est en train de renaître aussi grâce à ça. Et je pense que c'est que le début là.
Multijoueur, multicore et multi, je sais pas quoi.
Bon, il t'en fallait un troisième, ouais, t'es mal.
Ça, merde.
Bah non, mais voilà.
Et multitâche et dématérialisation.
On
c'est
en plein dedans, complètement.
La clé de voûte du PC de demain, quoi.
Voilà, et c'est des trucs qui sont déjà. Ce qui est marrant, c'est que vraiment, on est en plein. Tu fais le parallèle avec les consoles et t'as le PC qui est toujours là un petit peu en avance et ça arrive sur console.
Et c'est toujours une fenêtre sur l'avenir de la console.
Ouais. Et en termes de business, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a des trucs qui ont été inventés sur console sur lesquels les PCistes. On vomit, je pense au contenu téléchargeable payant, et c'est des trucs qui vont arriver sur PC maintenant. Donc là, c'est le chemin qui se fait en sens inverse.
Dépend d'où après, parce que tu vas.
Non, mais
des
c'est pas toujours une bonne nouvelle, mais il y a des trucs où ça va être.
On n'a pas pris le meilleur.
Non, mais il va y avoir des business. Il y a des jeux qui n'auraient pas existé sans ce business model-là.
Tout à fait.
Et je pense que finalement, à terme, c'est pas bon. S'ils nous font payer les lance-roquettes, on en reparlera.
Oui,
mais
c'est Apple qui va faire payer un lance-roquette sur une application iPhone.
Ça, c'est pour l'iPhone.
Voilà, mais c'est des trucs qui peuvent être intéressants. Donc
de toute façon, on sera toujours là pour dire effectivement ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, mais.
Voilà, donc moi je suis un joueur console et PC, mais c'est vrai que sur PC, bah, je m'éclate et c'est pas demain la veille que je vais arrêter de jouer sur cette machine, quoi.
Je vais parler console deux minutes, mais du coup, alors prochaine génération, à ton avis, SSD,
c'est ah oui, sur les
SSD,
consoles,
c'est certain.
Et SSD, dématérialisation ouais. Des jeux ou pas, franchement, sur la prochaine génération.
Non, je veux dire que c'est trop tôt.
Trop tôt à cause d'Internet, en fait, tout bêtement. Parce que tu peux pas télécharger les 25 gigas d'un jeu PlayStation. Tu vois, Metal Gear Solid 4, tu peux pas dire aux gens, vous allez télécharger pendant 15 jours votre jeu avant d'y
jouer.
Dans
10 ans, quand on sera tous.
Non, mais je pense que la fibre, après, c'est vraiment là, on est dans des problèmes structurels de gros travaux. C'est-à-dire que si on avait la fibre, etc., ça sera un autre problème. Mais
exactement. Il faut voir aussi que dans des pays comme aux États-Unis, par exemple, le développement d'Internet est beaucoup plus lent. Enfin, au niveau de débit, ils ont des choses qui sont vraiment pas comparables à ce qu'on a en Europe. Et effectivement, c'est un vrai frein pour la dématérialisation. Donc, ça va pas être pour la prochaine génération. Par contre, effectivement, la PlayStation 4,
on va y venir.
On va y venir.
De toute façon, on va sûrement dédier pas longtemps, une émission prochaine à la dématérialisation, parce que c'est un sujet d'actualité qui est très important pour tout le monde.
Ouais, et puis qui vous passionne aussi, vous, hein, dans les forums. On le voit souvent lors du podcast. C'est une vraie question. Lecteurs, ça avait beaucoup de retours à ce sujet-là, parce que c'est quelque chose qui, pour certains, panique un peu, parce que on aime ce côté un peu avoir la boîte, le côté un peu collector, avoir l'objet. Et à la fois, on sent bien que ça risque quand même d'être vraiment l'avenir. Donc, en tout cas, voilà un podcast, ma foi, fort conséquent, hein,
un peu plus long,
1h40 d'émission.
C'est le 93e, on en a attendu 93.
Mais passionnant très clairement.
Et on n'a même pas cité tous ces bons jeux PC, les Deus Ex, les Fallout, les trucs typiquement PC qui ont fait qu'on joue sur PC et qu'on aime le jeu
et
PC.
Et qu'on kiffe. Wing Commander, on t'aime.
En tout cas, on aura compris qu'il y a beaucoup de choses. Le PC nous réserve plein de belles surprises et en train de fourbir ses armes avec, avec talent pour aborder les prochains mois et prochaines années et en tout cas nous surprendre et rester en tout cas à la pointe de la technologie. Et ça, c'est fondamentalement intéressant et passionnant, qu'on soit du côté joueur mais aussi du côté développeur. Donc plein de bonnes choses. Jouer sur PC en 2009, c'était la question qu'on posait en ce début de podcast. Bah, clairement, je crois que la réponse est un grand oui. Restera dans les podcasts suivants et puis au fil de l'actu sur Gameblog et à décider à quel jeu sur PC on jouera. Mais vous l'avez compris, hein, là la question c'était plutôt de la cerner bien toute la thématique du PC. En tout cas, merci, un grand grand merci à toi Guillaume, hein. C'était très intéressant d'avoir ton avis sur l'Arabie par exemple.
Il se remet pas certains noms, hein.
oui.
Ou la voiture volante. Voilà, enfin tant de choses qui
ont l'avion à la voiture volante. Je sens que j'en entends parler de ça.
Comme ça, dégayer ce podcast. Merci aussi à toi Caf, hein.
De rien.
Tu seras peut-être invité à un prochain podcast. Voilà, maintenant en tout cas vous sur le forum de gameblog.fr, hein, vous pouvez commenter un petit peu eh bien, ce que vous pensez. Vous êtes peut-être utilisateur de PC, probablement même, hein, vous êtes mine de rien assez nombreux et c'est vrai qu'on avait vraiment envie de vous dédier un beau podcast sur cette belle plateforme qui n'a de cesse de se révolutionner aussi. Allez, à vous de commenter maintenant. Nous on va se dire à la semaine prochaine pour un nouveau podcast, hein, podcast de gameblog.fr, toujours le podcast numéro 1 du jeu vidéo audio en France. Ça nous fait plaisir et ça c'est grâce à vous. Donc nous on se donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, bah, portez-vous bien, puis surtout, bah, jouez bien. Ciao,
ciao, ciao.
Salut.